Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous voilà de retour enfin pour le podcast de la saison 15 des podcasts de Gameblog.
Eh ouais.
Ça faisait longtemps, hein, qu'on n'était pas revenu.
Bah, je me souviens plus de vos noms d'ailleurs.
Exactement, qui es-tu? Qui êtes-vous? Je ne sais pas. D'ailleurs, on est tous masqués, hein, comme vous pouvez le voir,
Oui.
évidemment, à cause du protocole sanitaire, comme on dit. N'est-ce pas? Puisqu'on est à peu près à 50 cm les uns des autres, donc on va éviter de se postillonner à la gueule. Mais écoutez, j'espère que tout le monde va bien, que vous allez toutes et tous bien. Ça fait effectivement longtemps. Je suis désolé, hein, si je reprends mon souffle et que ça fait un bruit bizarre, c'est normal, hein, parce qu'avec le masque, c'est un peu compliqué. Et bien voilà, donc on a mis un petit peu de temps effectivement à revenir. Pourquoi? Parce que, bah, comme vous voyez, on a une nouvelle petite coin d'installer
Un nouveau studio, une
pour les
nouvelle
podcasts.
déco.
Au niveau studio, je dirais pas ça parce que c'est au même endroit, mais on a refait toute la déco, il n'y a plus les canapés, etc.
Tu sais, c'est le showbiz, il faut entretenir la magie,
ouais,
le mystère.
En fait, on a déménagé, on est à Miami.
On a acheté un nouvel immeuble, voilà.
Ce podcast est réalisé en direct d'Hollywood.
Exactement. Et donc, bah voilà, c'est super de se retrouver depuis le temps avec Camille là-bas, regardez.
Ah oui, c'est ça.
Jean masqué, c'est lui, hein, regardez, avec ses cheveux et sa tête. Romain M, avec son masque et ses lunettes pleines de buée, dégueulasse.
Oui. Si vous voyez toucher mes lunettes, c'est normal.
C'est normal parce que t'es sale. Et Thomas P.
Oui, Thomas M, Thomas Mahu.
Thomas Mahu.
Comme d'habitude, comme je disais, si bien Julo.
Il s'en est passé des choses pendant ces derniers mois.
Je ne sais plus
mois.
Comment vous vous appelez.
Ah, merde,
toujours confié à la technique qui va guider cette émission vers l'infini. Et au-delà, évidemment.
On est déjà dans l'au-delà même.
C'est vrai.
Ouais.
Voilà. Donc Plume n'est pas là, on explique parce qu'en fait, il a un petit souci... de santé, mais tout va bien, rassurez-vous, c'est juste que...
C'est pas lié au Covid.
Non, rien à voir. Il pouvait pas trop marcher, donc voilà, on va le retrouver sans doute la semaine prochaine, si tout va bien.
Alors qu'on aurait pu l'allonger sur notre nouvelle table.
Exactement, là, franchement,
ça
aurait fait du bien
son
dos. T'imagines,
on est en train de parler, et plus, mais allongé comme
ça. C'est exactement ce que j'étais en train d'imaginer, moi, ça m'irait très bien.
Tout à fait. Comme vous pouvez le voir sur la table, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, Microsoft nous a prêté le mock-up de la Xbox Series S. Je me suis dit, faut pas que je me plante, faut que je dise la bonne console. Voilà, c'est donc celle-là. Et mine de rien, c'est un mock-up, mais elle est vachement bien faite. Hein. Moi, je m'attendais à un bout de carton.
Moi, je pense que c'est la vraie coque.
Mais je pense que c'est la vraie coque, effectivement.
Sauf
que...
rien dedans.
Exactement, tout à fait.
Et par contre, la manette, elle, c'est la vraie. Parce que j'ai pas ramené la Xbox Series X et chez moi.
Ah bah écoute, j'ai pas vu tout à l'heure quand tu l'avais posée.
Je l'ai pas ramené, mais la manette, en tout cas, est là et elle fonctionne bien. C'est une vraie.
C'est une vraie manette. Bah parfait. D'ailleurs, on va en parler de la Xbox Series X, entre autres, etc. Puisque t'as pu y jouer longuement, pas à des jeux next-gen, mais au moins à la
pas
console,
pour l'instant aux jeux next-gen.
T'as pu voir beaucoup, beaucoup de fonctionnalités, on va en parler. T'as fait le dossier sur gameblog.fr que vous pouvez voir, lire et admirer, n'est-ce pas, avec toutes les vidéos comparatives, etc. Et donc, on va forcément en parler, comme ouais. On va parler évidemment de la Xbox Series X, et forcément qui va sortir bientôt, mais on va aussi parler de la PS5 par rapport à la Xbox, qu'est-ce que ça vaut. Enfin, qu'est-ce que ça vaut? On ne le sait pas encore concrètement, mais on va essayer d'en parler.
En termes médiatiques.
En termes médiatiques, exactement.
De voir pourquoi c'est compliqué.
Exactement. Plus les cartes PC qui arrivent aussi, hein, faut pas les négliger, surtout pas avec Camille, n'est-ce pas? Parce qu'il va y avoir du lourd là aussi. Et...
Avec Camille, n'est-ce pas? C'est le meilleur enchaînement qu'on pouvait,
n'est-ce pas,
qu'on pouvait faire.
Et on va aussi évidemment parler des tests de la semaine qui sont tombés. Vous verrez ça tout à l'heure. Avec des gros jeux, n'est-ce pas, qui sont fantastiques.
Avec du piou-piou.
Et des piou-piou, exactement. Et si on commençait tout de suite, tradition oblige, avec le win et le fail de la semaine. Alors tout de suite, le win avec Camille, n'est-ce pas, qui va nous parler de Cyberpunk 2077, qui est gold.
Et oui, donc le win de la semaine, il s'agit de Cyberpunk 2077 qui est passé gold, hein, vous l'avez vu, c'était à la une des réseaux sociaux, tout Twitter en a parlé, tout Facebook en a parlé. Donc c'est un peu un win en demi-teinte, pourquoi? Parce qu'en fait, cette phase gold, donc, qui signifie donc la fin d'un développement de jeu, elle signifie aussi pour CD Projekt du crunch, puisque comme vous l'avez vu aussi sur Gameblog, maintenant le studio CD Projekt passe à des semaines à 6 jours par semaine et en plus ils n'ont pas parlé des horaires qu'ils doivent faire en plus de ça.
On
chaque jour
même pas effectivement l'amplitude horaire de chaque journée
parce qu'on pense qu'ils commencent déjà très tôt et à mon avis ils finissent aussi très tard, hein. Le crunch, on sait les dommages que ça fait sur des familles entières, que ce soit sur les épouses ou les époux des développeurs, donc c'est assez compliqué à gérer. La bonne nouvelle, c'est qu'on pourra jouer effectivement au jeu en novembre, mais la mauvaise nouvelle, c'est que on aura des équipes CD Projekt qui vont être rincées et qui vont devoir redoubler de travail pour pouvoir peaufiner le jeu à la sortie, quoi. Et c'est vraiment, enfin, c'est assez problématique.
Je pense qu'après tant d'années de développement, elles étaient déjà épuisées de,
oui, c'est
de
sûr.
Toute
ah,
façon.
Surtout qu'ils n'ont pas terminé. Et là, il y a tous les modes qui vont arriver derrière, le multi, etc. Enfin, les mecs vont même pas pouvoir vraiment se poser avant de continuer le développement.
Là, officiellement, ils expliquaient que c'était pour entrer dans la phase de debugging du, enfin, ouais. le dernier debugging du jeu. Mais c'est d'autant plus embêtant que c'est des projets qui s'étaient engagés. Il y a plusieurs années, de ne pas faire de ou de ne plus faire de crunch, et donc ils mentent, enfin ils reviennent complètement sur leur parole. Et je pense qu'en l'annonçant publiquement comme ça, enfin semi-publiquement, ils espéraient peut-être que faut avouer à moitié pardonné, tu vois. Mais en fait,
on le découvrira pas à travers une enquête de Jason Schreier, par exemple. Ouais. Là, au moins, on sait que bah, techniquement, ils en bavent. Ça fait un moment qu'ils en bavent, et puis chez CD Projekt, c'est quand même un petit peu la règle à la base, quoi. Mais ouais. Là, c'est encore pire.
Alors, surtout, consolation pour les développeurs, c'est que ça a été.
Parce qu'ils auront le jeu gratuit.
Non, ils ont dit qu'en fait toutes les heures supplémentaires faites dans le cadre de ce crunch, etc., seraient rémunérées parce que la loi polonaise l'impose. Alors qu'on sait que parfois le crunch, les heures sup et tout ça dans les autres studios de jeux vidéo, ouais. c'est pas nécessairement payé.
Cas, ouais.
Alors ça n'arrange pas tout, mais au moins tu travailles pas des heures comme ça pour rien.
Surtout en plus du polish jusqu'à la sortie, on sait comment ça se passe à la sortie d'un triple A comme ça. Hein. Il va y avoir des bugs qui vont être repérés par la communauté et forcément bah, ils vont devoir réagir au quart de tour et dans la foulée faire encore des semaines à rallonge pour pouvoir résoudre les problèmes qu'il y aura. Quoi. Donc,
En tout cas, CD Projekt a toujours été parmi les mauvais élèves de toute façon en termes de d'heures de travail, de crunch, etc. etc. Et un projet comme Cyberpunk 2077 visiblement n'a pas arrangé les choses.
Tout à fait.
Et c'était donc c'était un win, mais
c'était le
win, quasiment pas.
C'était vraiment le win. Hein, parce
que le seul win, c'est si vous avez envie de jouer à Cyberpunk en novembre, bah vous voilà. pourrez.
Et que vous vous foutez complètement des conditions de travail voilà. des gens qui ont œuvré derrière.
Travailleurs, voilà. travailleuses, c'est un bolchevisme.
Et on devrait remplacer le logo de Gameblog, la croix orange, on va la faire devenir rouge maintenant.
Ouais, puis il faut aussi les marteaux, tout ça.
Très bonne idée.
On va la transformer tout à l'heure, j'irai à la forge.
Tout de suite, c'est le fail avec Thomas, le fail.
Ouais,
alors, qu'est-ce qui se passe,
c'est Thomas, pas... le fail, ouais. Bah non, mais c'est moi, le fail.
T'as un
semaine.
Fail vivant. Vivant.
Ouais, carrément.
Les amis.
Cette semaine, on va parler, bah, pour le amis. Coup, de Nintendo, puisque vous n'êtes pas sans savoir que les possesseurs de Switch ont pu expérimenter un petit problème technique qu'on appelle chez nous le Joy-Con Drift.
Exact.
Et on avait laissé le feuilleton en pause au mois de mars, alors que la justice américaine mettait l'affaire justement en pause, puisque des joueurs américains avaient monté une class action contre le constructeur japonais justement à cause du Joy-Con Drift. Et bah, là, le feuilleton continue, hein, c'est la rentrée, donc évidemment, les séries et les affaires judiciaires reprennent. Et pour le coup, on a un petit troll de la part du cabinet qui défend justement les intérêts de Nintendo dans cette affaire, qui s'est exprimé assez récemment en disant, je cite, « Le Joy-Con Drift n'est pas un réel problème et il n'a pas causé d'inconvénient aux joueurs ». Preuve évidemment qu'ils n'ont a priori jamais essayé une Switch ou un platformer un tout petit peu exigeant, ceux qui savent de quoi je parle m'auront compris. Et du coup, suite à ça, eh bien, ils invitent les joueurs qui seraient quand même, malgré ces déclarations incroyables, lésés, à leur envoyer la preuve justement de ce problème qu'ils auraient pu rencontrer. Pour cela, il suffit de filmer un petit peu les problèmes que vous rencontrez sur votre Switch durant une vidéo de 90 secondes ou moins, de faire un petit texte et de l'envoyer à l'adresse mail qui est présente sur bah, la news en question. Que vous allez retrouver évidemment sur Gameblog si jamais vous avez envie de participer à cette espèce d'action collective pour essayer de monter justement un dossier qui va être ensuite transmis à l'entreprise. Alors on sait qu'il n'y a pas forcément de procès encore de manière sûre et certaine. Les deux parties essayent de trouver un accord, donc peut-être que bah, cette procédure va viser à mettre un chiffre ou un, je sais pas, un niveau sur le dommage que les joueurs ont pu constater. En tout cas, on sait que, grâce à vos commentaires, vous êtes vous aussi en France assez nombreux à avoir ce problème. Et chez nous, bah, l'affaire continue puisque c'est l'association UFC Que Choisir qui a pour le coup assigné Nintendo en justice de ce côté de l'Atlantique. Donc évidemment, la suite au prochain numéro.
Tu parlais de problèmes que ça pose pour les jeux de plateforme ou les jeux exigeants, hein, même au-delà de ça, rien que pour naviguer dans les menus. Moi, parfois, pour éteindre ma Switch, je galère parce que
je me suis fait troller pas plus tard que tout à l'heure.
Quand tu vas dans le menu pour éteindre complètement la console,
ah, ça va,
le truc il remonte et tu dois lutter pour le faire descendre. Enfin, franchement, le Joy-Con Drift, c'est un vrai problème.
L'éteint pas,
c'est d'autant plus pénible que les Joy-Con sont chers. Genre si tu veux tu veux te racheter une paire de Joy-Con, ça coûte une blinde et c'est pas normal.
Et puis
t'as
aucune garantie qu'ils vont
mieux se comporter
que ceux que t'avais avec la console.
Après que les avocats de Nintendo of America disent ça, finalement c'est pas surprenant parce que s'ils arrivaient et qu'ils disaient oui il y a un problème effectivement là c'est ouvrir la porte à plein
ils vont essayer de minimiser le dommage d'une manière ou d'une autre. En tout cas une chose est certaine, c'est que l'affaire elle continue.
Rappelez-vous de la Xbox 360 avant que Microsoft décide d'étendre la garantie pour tout le monde quand il y a eu le Red Ring, les avocats disaient oui non ça concerne une toute petite partie des joueurs Xbox 360. De toute façon, dès qu'il y a un problème de ce genre, ça concerne toujours une toute petite partie des utilisateurs.
Ah non, puis là, non seulement il n'y a pas changent. De problème, mais en plus, ça n'a pas causé d'inconvénients. Tu vois, donc tout va bien.
Mais donc, comme tu le disais très justement, ils n'ont jamais utilisé de Switch.
Oui, effectivement. Parfait. Bah, écoutez, c'était le fail de la semaine et je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler, évidemment, suite au prochain épisode. Tout de suite, il est temps de passer au thème numéro 1. Et le thème numéro 1 de ce podcast de la saison 2020-2021,
il est là.
C'est évidemment, vous l'avez devant vous, là c'est la Xbox Series S.
C'est la nouvelle génération de Xbox.
Exactement.
D'une manière, Xbox manière générale, généralisée.
Dont on va parler, et surtout Romain qui a pu évidemment la tester en long, en large et en travers. Et je te laisse la parole, écoute, tu peux... foncer dessus. Je rappelle quand même que tu as fait un gros dossier sur Gameblog, vous pouvez aller lire.
Très visuel en plus, donc ça vaut vraiment le coup en complément d'aller jeter un œil au dossier.
Tout à fait.
Et alors, d'emblée, Microsoft en fait s'est retrouvé, comme d'innombrables autres entreprises, un peu bloquées à cause du Covid, parce que l'idée, évidemment, une année de sortie de console, c'était que des joueurs et la presse, les influenceurs, tout ça, puissent essayer la console avant sa sortie, mais pas d'E3, pas de Gamescom, pas de salon, etc. Donc forcément, ça bloque. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé à certaines personnes d'envoyer la console en amont, avec bonne chose, quand même pas mal de temps avant la sortie, ce qui n'est pas toujours le cas quand on sait que de plus en plus de tests nous sont donnés 24-48 heures avant la sortie du jeu.
C'est pas le jour même.
Donc là, on a eu, la console la semaine dernière au moment où je vous parle, et c'était fait de manière inédite au sens où c'est une sorte d'embargo en plusieurs phases. Là, en l'occurrence, on a reçu la console avec aucun jeu. C'est la première phase pour tout le monde. La première phase du test en fait concerne les fonctionnalités de la console et ce qu'elle apporte aux jeux rétrocompatibles, parce qu'on sait que la Xbox Series X et la Xbox S dans une moindre mesure, parce que là pour le coup ça concerne que du jeu dématérialisé, donc faut passer par du téléchargement ou le Game Pass. Mais sur Series X, vous pouvez jouer à tous les jeux Xbox One sauf les jeux Kinect, parce qu'il n'y a plus de Kinect sur Series X, ainsi qu'aux jeux Xbox et Xbox 360 qui étaient déjà rétrocompatibles sur One. Donc ce n'est pas une rétrocompatibilité totale. Tous les jeux Xbox, par exemple, ne sont pas compatibles. C'est la même liste qu'il y avait sur Xbox One. Ouais. Et donc c'était un moyen de tester diverses choses. En ce qui concerne la rétrocompatibilité, par exemple, c'était pour voir les améliorations que ça apporte de manière naturelle. Par exemple, n'importe quel jeu que je pouvais essayer dans ceux auxquels j'avais accès, il y avait des temps de chargement raccourcis, il y avait un gain de résolution, gain de framerate dans certains cas aussi, genre framerate plus élevé ou plus stable. Et tout ça, ce sont des améliorations automatiques. Il n'y a pas eu de développement spécifique de la part de Microsoft ou des développeurs originaux des jeux pour atteindre ce résultat-là.
C'est la console en hard qui...
Et t'as pas eu besoin de télécharger quoi que ce soit. T'as mis ton jeu et automatiquement il est boosté par la console.
Voilà, en fait, quand t'as un jeu dématérialisé, tu le télécharges. Et quand t'as un jeu sur disque, c'est le même système que sur Xbox One. En fait, tu mets ton jeu dans la console, il est téléchargé sur le serveur de Microsoft et ton disque en fait fait office de clé. Mais il n'y a pas de patch spécifique pour ces jeux-là. S'il est déjà installé, on va dire, tu le lances comme si de rien n'était. Mm-hmm. Et c'est là que ça change. Et effectivement, vous pourrez le voir dans le dossier, les gains sont assez notables. Forcément, les jeux passent d'un seul coup en 4K. Et ce n'est pas de l'upres, là, c'est pour le coup plus de la 4K, native. Les décors gagnent en finesse, il y a moins de flou. Le champ de vision, enfin la profondeur de champ est augmentée avant que, par exemple, les choses deviennent floues, etc. Le framerate, par exemple, je prends le cas de Final Fantasy XV qui était un peu à la peine sur Xbox One. Ben là, en plus d'avoir des personnages et des décors beaucoup plus fins et détaillés, et ben le framerate gagne énormément parce que pour rester sur le cas de jeux comme FF15 ou Monster Hunter World, on sait que sur Xbox One X, par exemple, y avait plusieurs modes. Soit vous preniez un mode 4K, enfin Ultra HD, et donc là vous aviez des graphismes plus beaux, mais au détriment du framerate. Ouais. Et si vous vouliez un framerate plus élevé, et ben là les graphismes étaient un peu moins beaux. Et là par exemple, dans le cas de FF15 et Monster Hunter World, et ben j'ai mis en mode graphisme justement, mais là aussi malgré tout le framerate était largement boosté après, parce que comme j'ai fait des comparos, je passais de la Xbox Series X à ma Xbox One S tout le temps. Et après, quand tu reviens sur FF15 sur One par exemple, putain, t'as l'impression que le jeu est pas fini en fait. T'as l'impression, non mais ça, le framerate il est tellement
c'est peut-être pas aux
fraises que ouais, t'as l'impression de jouer au ralenti. Et
bah, les comparatifs ça pardonne pas en
c'est,
général.
Et c'est vraiment désagréable en fait. Quand tu commences à jouer sur Series X, t'as plus du tout envie de jouer sur Xbox One.
Alors que t'étais pas forcément dégoûté d'avoir un framerate comme ça à la base.
Dès
que tu compares, tu vois quand même une grosse
différence. C'est la réflexion que je me suis surtout faite vis-à-vis des temps de chargement.
Parce que tu as joué normalement.
Ouais.
Ah, temps de chargement non plus, ça t'avait pas marqué
en fait,
à l'époque.
En fait, il y a des jeux qu'on connaît comme ayant des temps de chargement très longs, donc Red Dead Redemption 2 exemple, qui lui charge l'intégralité du monde pour commencer et ensuite c'est ouvert. Donc là, t'avais quasiment 2 minutes de chargement, mais
facile.
Sur ces jeux-là, tu t'es habitué, tu vois. Et là, tu gagnes énormément. Mais dans un autre genre, par exemple, un jeu comme Resident Evil 2, le remake évidemment, c'est pas un jeu dont on a parlé pour ses temps de chargement en disant « ouais, ils sont abusifs, etc. » Mais sachant que sur Xbox One, ils étaient de 30 secondes, et quand tu passes sur Series X, ils sont de 3 secondes,
Ouais. Là, tu sens quand même une grosse différence.
Ou même FF15, le temps de chargement, je crois que c'est 1 minute 10 sur One, et c'était 14 secondes sur Series X. Donc après, quand tu retournes sur One, tu dis, mais tu regardes ta montre.
Mais parce que tu charges l'Overworld aussi, donc ça prend un petit peu de temps.
Mais le gap, il est tellement important.
Là, pour le coup, il est vraiment colossal.
Tu te dis, mince, comment je faisais avant, quoi. Tout ce temps perdu.
T'allais faire autre chose, t'allais chercher une canette et tu revenais. Et puis voilà.
Et l'autre chose aussi, c'est que comme la console est puissante, eh bien, elle peut facilement gérer plusieurs tâches à la fois. Par exemple, pendant mon essai, quand je jouais sur One, il m'arrivait de jouer à un jeu, de faire mes captures, etc. Et pendant ce temps-là, d'installer un autre jeu sur le disque dur. J'ai essayé de faire pareil sur la One. Par exemple, j'ai voulu faire mes captures de Red Dead Redemption 2 pendant que Monster Hunter World était en train d'installer. C'est tout simplement... Non, c'est l'inverse.
Oui, c'est ce que je me disais.
Je jouais à Monster Hunter World et pendant que Red Dead Redemption 2 était en train d'installer. Et c'était tout simplement impossible parce que là, les temps de chargement sur Monster Hunter, ils passaient de 1 minute, on va dire 20, je ne me souviens plus exactement, à plus de 3 minutes. Au bout d'un moment, j'ai carrément arrêté mon chronomètre. Je me suis dit, ça ne peut pas être long comme ça, c'est qu'il y a un problème. Et effectivement, le problème, c'est parce que le jeu installait, un autre jeu installait en parallèle et que la console, laissez-moi tranquille.
Elle était perdue.
Je veux plus.
Une tâche à la fois, foutez-moi la paix.
Et donc, ce problème-là n'existe pas sur Series X et d'ailleurs Microsoft s'en sert pour le système de Quick Resume, ce qui est très pratique aussi. Ce système, pour ceux qui n'ont pas tout suivi, permet de maintenir en suspens plusieurs jeux simultanément. Alors on sait que sur une console normale, quand vous lancez un jeu, l'autre jeu que vous aviez ouvert se ferme et il faut le relancer complètement. Là, c'est pas comme ça. Vous pouvez avoir plus simultanément plusieurs parties en cours ouvertes et passer d'un jeu à l'autre en quelques secondes, tout simplement, ce qui est quand même beaucoup plus court que si tu relances le jeu, tu as les menus, etc., les chargements. Là, non, tu te retrouves à nouveau dans ta partie immédiatement. Moi, j'ai essayé de pousser le truc un peu pour voir jusqu'où ça allait et au max, j'ai réussi à faire tourner 7 jeux en même temps. Avant qu'il y en ait un qui se referme.
C'est quand même pas mal. 7
jeux, c'est au max.
Personne ne joue à 7 jeux en même temps.
Personne n'ira à faire jusque-là. Mais après, ça pourra s'appliquer aussi, j'imagine, aux applications multimédia. Tu vois, si tu as un jeu ouvert, des applications en parallèle, etc. Ça, on n'avait pas possibilité d'essayer ça.
Mais c'est vrai qu'il y a un vrai côté pratique quand même là-dessus.
Au début, c'est...
Surtout, je veux dire, avec tous les gens qui ont des applications dans tous les sens sur leur téléphone, etc.
Non, puis tu peux le consommer consommer différemment aussi. Tu peux avoir ton jeu d'aventure ou ton RPG que tu joues en solo, ouais.
Le jeu dans,
lequel tu retrouves tes potes le soir, ouais. Où tu reçois le message, vas-y mec, on est dans le lobby, et hop, tu y arrives directement. Et comme tu dis, tous les services aussi qu'on va avoir à côté, qu'on connaît, Netflix, la série a été sauvegardée, ce genre de trucs, c'est vrai que ça peut être quand même assez pratique. Après, il faut voir évidemment la consommation aussi que ça va demander, même si c'est évidemment quelque chose qu'on n'a pas encore pu mesurer, mais il va falloir se poser la question aussi.
Mais c'est, ouais, on en parlait, il y a, je crois, le lendemain de la réception de la console. Au début, quand je me suis retrouvé face au Quick Resume, je me suis dit, mince, à quoi ça sert,
quoi ça va servir,
qui a trois jeux ouverts en même temps, etc. Et après, je réfléchissais, par exemple, à un moment, je jouais à un jeu tout seul, et le soir, avec ma femme, bah, je faisais des parties d'Overcooked. Et bien, ne pas avoir à fermer l'un et pouvoir réaccéder à Overcooked rapidement, et une fois que ma femme est partie, le laisser en pause et relancer mon jeu solo, tout comme ça. Ou pour les gens qui jouent à Fortnite, par exemple, avec leurs potes, avec leurs potes le soir, etc., bah, t'es en train de jouer tout seul en attendant que tes potes se connectent, tu reçois un SMS, ah, on est là, c'est bon, on est prêt, hop, tu switches sur Fortnite, etc. Par contre, seul bémol, c'est que pour certains jeux connectés, et bah, quand ils sont en suspens, il peut arriver que la connexion au réseau s'interrompe. Donc ça, ça peut arriver.
Ça se comprend aussi.
Et s'il y a une coupure de courant, pareil.
Ah oui, alors voilà.
Parce
que la Xbox Series, bon, les coupures de courant, c'est sûr,
c'est rédhibitoire.
Ça remet tout à zéro. Par contre, si la console, en fait, vous avez deux choix. Soit vous la laissez en veille, comme c'est déjà possible de le faire sur les consoles actuelles, soit vous l'éteignez complètement. Si vous la laissez en veille, eh bien, quand vous la rallumez, vous pourrez reprendre vos parties en quick resume sans aucun problème. Après une nuit complète, par exemple, il n'y a pas de limite de temps. Moi, je suis allé me coucher, le lendemain, j'ai rallumé.
Laissé en veille, donc.
J'avais laissé en veille et j'ai pu reprendre là où j'en étais. Si vous éteignez complètement la console, là, tous les jeux se ferment totalement. Ouais. Il faut les rouvrir.
Donc, ça va être chiant pour moi.
L'autre intérêt du Quick Resume, je trouve, c'est vis-à-vis du Game Pass. Parce qu'on sent quand même que la console a vachement été pensée pour l'utilisation du Game Pass. C'est que... Avant d'utiliser le Game Pass, je pensais pas faire ça, mais c'est vrai qu'une fois que tu l'as, t'as envie de picorer, en fait, t'as envie de télécharger plein de jeux pour essayer des
trucs. Ne serait-ce que 10 minutes par là, 10 minutes par là.
Tu sais, si ça te plaît pas, soit tu le mets en pause, soit tu le laisses tomber, etc. Mais des trucs que t'aurais pas forcément fait quand tu dois payer les jeux de manière individuelle, tu vois. Attends, tu vas peut-être en télécharger 3 ou 4 vite fait, et genre au cours d'une soirée, tu peux passer de l'un à l'autre simultanément. Donc, avec le Game Pass, ça peut.
Ça peut avoir une grosse utilité, effectivement.
Ça peut servir aussi. Donc voilà, j'ai parlé de la rétrocompatibilité, temps de chargement, quick resume, c'est à peu près
tout ce
dont
faire, tout ce que tu peux dire surtout.
Voilà. Après, je mens pas parce qu'on m'oblige à le faire. Pour l'instant, au moment où je vous parle, j'ai vraiment pas accès à des jeux next gen. C'est d'après les plans de Microsoft pour la preview, on va dire, les jeux vont arriver next gen vont arriver un peu après. Donc je pense que j'aurais moyen de faire des comparos tels que ceux que j'ai fait entre la Xbox One et la Series X sur des jeux rétrocompatibles. Mais moi, ça m'intéresserait aussi de faire ça pour des jeux cross-gen.
Tout ce qui va sortir, mine de rien, puisqu'il n'y a pas d'exclus véritable.
Et surtout les jeux cross-gen qu'on nous présente comme étant Smart Delivery. Où il y aura soi-disant des améliorations spécifiques à la nouvelle génération Xbox. Donc là, pour le coup, je serais curieux de faire les mêmes comparos avec la Xbox One, mais aussi avec la PS4 Pro, par exemple, pour voir... Je cite ces consoles-là parce que c'est celles que j'ai chez moi, donc ça me facilite la tâche, mais pour voir effectivement de quel est le gap, etc. Mais en tout cas, c'est vrai que quand vous avez accès à la Xbox Series X, vous n'avez plus envie de jouer... vous n'avez plus envie de jouer à la Xbox One normale. Le confort d'utilisation via le Quick Resume, via les temps de chargement ou même via les améliorations virtuelles, pas virtuelles, visuelles. Tu vois, tu regardais les vidéos de Yakuza 0 que j'ai faites. Le jeu, pourtant, qui est à la base un jeu cross-gen PS3, PS4, donc c'est quand même un jeu qui a un certain âge. Le gain de netteté dans les décors et tout, c'est vraiment plaisant de les voir comme ça. Et c'est là aussi où tu te rends compte que la rétrocompatibilité peut servir aussi bien pour Microsoft que pour les éditeurs. C'est que quand tu as accès à des jeux comme ça et qui sont améliorés, bah ça, commercialement, ça les rend exploitables plus longtemps, tu vois. Moi, par exemple, Red Dead Redemption, bon, j'ai fait des captures pour les besoins du dossier, mais je l'ai en retard, je n'y ai pas encore joué. Maintenant, si je décidais de me lancer dans Red Dead Redemption 2, j'ai envie de me lancer sur Series X, parce que c'est là où il est exploité au, il sera exploité au mieux. Quoi. Ouais,
du coup, toi, tu comprends leur démarche de découper justement la présentation de la console, en fait, parce que là, tu l'as reçu, mais on est quand même, entre guillemets, assez limité sur ce qu'on peut dire de ce qu'on a pu voir.
Bah,
mais
t'es limité
ça permet de mettre en avant justement des fonctionnalités dont on n'aurait peut-être pas autant parlé si on avait tout reçu d'un coup.
Non, mais comme tu dis, au moins, on l'a reçu, la console.
Ouais.
La PS5, on l'attend toujours. Ouais. Et pourtant, elle sort quasiment au même moment.
Ben, c'est marrant que tu dis ça parce que je lisais
deux mois avant, je trouve ça cohérent.
Je lisais les commentaires de mon dossier tout à l'heure et il y a quelqu'un qui a dit « Je ne comprends pas pourquoi ils vous ont fait commencer par la rétrocompatibilité plutôt que de commencer sur les jeux next-gen. » Et il dit « Oui, c'est une fonctionnalité, selon lui, assez anecdotique. » Moi, au contraire, je trouve ça malin de commencer par la rétrocompatibilité. Parce
quand
que
t'as un catalogue aussi énorme.
Et c'est surtout une thématique qui aurait soit été pas traitée, soit beaucoup moins traitée si on avait eu accès à tout en même temps. Parce qu'évidemment, t'as une console next-gen, on te met tous les jeux next-gen en même temps.
Tu vas forcément parler que de ça.
Quoi les gens vont se focaliser tout de suite sont les jeux next-gen. Donc là,
t'en as un dans le fond qui dit oui, mais Monster Hunter, et tout le monde s'en fout. En
voilà, chasseur de Strum.
Là, Microsoft, ça lui permet d'avoir un temps de communication multiple, d'être mis en avant sur les médias plusieurs fois, et ça permet de vraiment parler de fonctionnalités
intéressantes et importantes
franchement, je sincèrement, si j'avais eu la console avec des jeux next-gen, j'aurais pas passé le temps que j'ai passé à faire des captures comparatives et trucs comme ça, parce que on n'a pas l'impression comme ça, mais c'est tellement chronophage faire ce que j'ai fait dans le dossier là, ça demande énormément
allez
de temps.
Allez le lire.
Et donc on n'en aurait jamais parlé si tout était arrivé en même temps.
Exactement,
donc c'est
tout à fait. Je pense que c'est plutôt malin, c'est plutôt intelligent de leur part de découper un peu leur...
C'est la résultante aussi de cette drôle d'année où il n'y a pas eu justement d'event particulier parce qu'on aurait sans doute été invité à le voir de différentes manières, etc. Là, au moins, tu as l'assurance qu'on va s'attarder un petit peu
sur ta console. Tu as le confort et le temps de faire ça, de prendre ton temps justement. Parce que c'est vrai que c'est pareil sur un salon où on te dit « Ok, tu as un slot d'une heure pour essayer la console. »
Tu regardes ça 5 minutes et tu fais « Ok. »
Tu ne vas pas t'arrêter sur le quick resume et sur la rétrocompatibilité sur un salon.
En tout cas, pas en profondeur. Tu vas juste devoir 2 minutes et te dire « Ouais, et puis voilà, quoi.
Là franchement ça permet de faire les choses bien et je trouve que c'est un bon moyen de faire la transition avec le sujet suivant.
Tout à fait, Jean-Pierre,
parce que autant là Microsoft il se débrouille plutôt bien, on trouve en communication sur la Xbox Series X, ce qui était
attention quand même.
Oui.
Oh là, monsieur, vous allez un peu loin, je trouve.
Non, mais on est quand même vachement loin de ce qu'ils ont fait avant l'annonce avant la sortie de la Xbox One. Et quand on compare...
Ouais, mais on parle d'une autre époque avec d'autres acteurs.
Oui, l'époque révolue. Non, mais aussi quand on compare avec Sony, qui a montré très peu de choses et qui n'a laissé à personne la possibilité d'essayer la console et qui en plus...
Si, maintient... des youtubeurs japonais, ça y est.
Oui, c'est vrai.
Qui maintient
tout récemment.
Donc on découvert qu'en bougeant la manette, on pouvait faire sauter un personnage.
Ouais. Moi, je ne les ai pas regardés, les streams japonais, mais d'après les commentaires que j'ai vus ça et là, ça n'avait pas l'air d'être super intéressant ce qu'ils ont fait.
Si, les gens gueulaient en découvrant les jeux. Enfin, moi, franchement, c'est ce que j'attends.
Yata, sugoi.
Gazané, tu connais ou...
Et donc, on est dans une situation assez inédite, là, au moment où vous parle, on est le 6 octobre 2020. On est à un mois et demi
la première année du Covid.
À un mois et demi environ de la sortie de la PS4. On vient tout juste d'apprendre son prix, parce que c'est assez récent, mine de rien. Et on n'a toujours pas eu l'opportunité d'essayer la console.
Mais on n'a même pas d'informations, en fait, sur ce qui pourrait arriver.
L'interface, par exemple.
Il y a plein de choses qu'on ne sait pas, en fait, qu'on n'a jamais vu.
C'est là qu'on voit que les constructeurs, finalement, étaient... pas franchement prêt à changer véritablement leur plan de communication qui devait être acté depuis très longtemps avec la... On a vu qu'ils ont fait une espèce de rétention d'informations, on en a parlé entre nous, vous-même, on l'a bien vu sur Internet, les gens étaient demandeurs d'infos toutes bêtes, la date de sortie, le prix, le line-up de lancement, c'est des choses qu'on a eues vraiment très tard, et on a senti du coup qu'il y a une certaine fébrilité, je trouve, dans les coms, et des deux côtés, hein, je mets vraiment Sony et Microsoft dans le même panier, à pas vouloir... dire des choses et à du coup entretenir un espèce de flou qui va pas franchement les servir, je trouve, parce que il y a encore beaucoup de questions qu'on se pose sur des fonctionnalités, sur tout un tas de choses, et le fait qu'il n'y ait pas de réponse, t'as l'impression que il n'y a pas eu une véritable transformation du plan de com chez eux. En tout cas, pour moi, ils n'ont pas réussi à véritablement s'adapter au Covid. Alors, c'est une fois de plus des choses qui sont prévues depuis des années, mais on sent que, pour moi, il y a quelques petits ratés dans la communication autour du lancement de ces deux machines.
Y a pas, moi, je ne pense pas que ce soit lié qu'au Covid. Je pense que là, surtout, on a
ils se sont regardés un peu
en champ de faïence. On a eu vraiment un affrontement de western.
Ouais.
T'imagines
sans Covid, tu l'aurais eu pendant les salons. Ils auraient été présents tous les deux. On aurait pu essayer les nouvelles consoles. On aurait pu essayer des jeux nouvelle génération.
Peut-être pas. Peut-être qu'à l'E3,
oui, mais aussi pendant les ce qui a changé, c'est que pendant les salons, comme ce sont des temps de communication importants, c'est là on aurait pu l'attendre que des annonces en termes de date de sortie et de prix auraient été faites là, d'un côté comme de l'autre. Ils ont repoussé le truc au maximum pour pas être le premier à dégainer, pour pouvoir s'adapter en cas d'annonce tonitruante du camp adverse. Là tu vois par exemple la Xbox Series S a fuité, mais complètement fuité, et le prix et la date de sortie ont fuité dans la foulée, et c'est ce qui a poussé Microsoft à confirmer le truc et le lendemain à annoncer enfin la date de sortie et le prix de la Xbox Series X. Mais s'il n'y avait pas eu cette fuite de la Series S, je me demande
peut-être que s'ils auraient lancé des hostilités, ouais.
S'ils auraient fait leur annonce à ce moment-là, parce que j'ai l'impression qu'ils attendaient vraiment que Sony
aussi,
dégaine en premier pour pas se retrouver dans la même situation qu'avec la Xbox One, $100 plus cher, etc., avec le tort que ça a pu
mais du coup on se retrouve à quelques semaines du lancement et il nous manque toujours tout un tas d'informations en fait.
Bah, t'as le prix, ta date de sortie, ça suffit. Hein.
Oui, mais sur les fonctionnalités.
C'est les gens, ils vont l'acheter quand même.
On parlait de la rétrocompatibilité justement autour de la Series X. Chez Sony, il y avait encore des choses qui étaient assez floues.
C'est toujours flou.
C'est toujours flou. Ryan balance des chiffres du style 99% de PS4 rétrocompatible. Mais finalement, on se rend compte qu'en termes de transfert de sauvegarde d'une génération à l'autre, il y aura potentiellement des problèmes.
Enfin, c'est pas assuré à 100%.
Il y a plein de trucs qui font que la communication, pour moi, elle est complètement pétée, elle est erratique. T'as des infos qui fuitent, des demi-démentis qui n'arrivent pas vraiment cautériser le truc d'un côté, et c'est compliqué à suivre. Et tu te dis que déjà les modèles, certains modèles genre celui-là et sa grande sœur ont des noms avec lesquels même nous des fois on se trompe par moment.
Ah oui, faut bien réfléchir.
Voilà, donc je mets à la place du consommateur, voilà, il y a des choses qui sont pas encore très claires. Et pourtant, moi c'est ça qui m'éclate, c'est que les gens se sont rués dessus, ouais. Que ce soit la Series X ou la PS5 avec des lecteurs physiques dans les deux cas,
il y en a plus.
Les gens se sont jetés dessus.
Après commande, en tout cas, il n'y en a plus.
Pour l'instant, on te vend grosso modo juste la promesse de lendemain qui chante, quoi. C'est venez rejoindre la nouvelle génération. On ne sait pas trop ce qu'il va y avoir, mais venez. Quoi.
Après, on n'a aucune idée des quantités proposées aux magasins. Parce que
ça vient à 100 000.
J'ai l'impression, ça fait 2-3 jours que je vois ça. Sur Twitter, des revendeurs dans différents pays commencent à envoyer des mails à leurs clients pour dire oui, vous avez précommandé votre machine,
vous l'aurez pas la première vague, mais la deuxième.
Et dans certains cas, ça peut aller de quelques jours d'écart à plusieurs mois. Donc on ne sait pas du tout. Par contre, c'est vrai que Sony est super confiant parce que Jim Ryan a dit pas plus tard que
il y a quelques jours,
qu'ils s'attendent à ce que sur la première année fiscale, donc c'est-à-dire entre le 19 novembre ou le 12 novembre en fonction de la région et le 31 mars de l'année prochaine, ils vendent plus de PS5 qu'ils avaient vendu de PS4 à son lancement.
Période,
donc, ouais. Ils restent très confiants. Moi, je trouve, parce qu'on parle des couacs de com, etc., je trouve que le prix d'Onmatric 2020 devrait être remis à Jim Ryan parce qu'il enchaîne, Jim Ryan, donc le nouveau big boss, enfin nouveau depuis quelques années maintenant, de Sony Interactive Entertainment, parce que le mec, il change de son fusil d'épaule, il retourne à une vitesse, parce qu'on se souvient qu'en début d'année, oui, quand Microsoft a annoncé le concept de jeu Smart Delivery, cross-gen, etc., il disait non, nous on croit dans le concept des générations, on veut des générations tranchées avec des jeux qui ne sortent que sur PS5, et là, il y a quelques semaines, oui, alors en fait, nos jeux de lancement, Miles Morales, Sackboy, et il y en a un troisième,
le prochain
Horizon, ils sortiront sur PS4 aussi.
Oui, mais là,
et
il
après,
va dire
il dit,
que...
oh, mais je comprends pas que les gens soient déçus.
Non, mais il va te dire qu'il pensait à cette époque-là à d'autres jeux qui n'ont pas encore été annoncés, qui, eux, évidemment, seront exclusifs à la PS5.
Oh, bah, je le sens tout à fait capable de rebondir et de changer ça. Sa manière de
Jim,
dire.
Si tu veux, j'écris tes prochains communiqués.
Il arrête pas de faire des trucs comme
Spencer,
ça.
Spencer, vous en a fait des belles aussi quand même cet été. Hein. Spencer, on a enchaîné
aussi.
Ah oui,
mais après Microsoft, ils se sont un peu ramassés. Et alors que finalement les faits leur ont donné raison, vu que finalement Sony a l'air plus ou moins de faire la même chose qu'eux en termes de gestion de la dégénération, etc. Mais on se souvient de l'annonce d'Halo Infinite, par exemple, qui a été quand même une sorte d'accident industriel assez conséquent. et donc oui, il y a eu des couacs des deux côtés. Mais là, ça commence à bouger parce que déjà, maintenant, la Xbox Series X, bah, on y a accès. On sait ce qu'elle propose.
Elle existe pour de vrai.
Elle fonctionne, elle est là et voilà.
Alors que la PS5, on attend toujours de la mettre ici pour pouvoir la comparer.
Bah, la PS5, si on la met là, on ne nous verra plus.
On ne verra plus. On ne verra même plus les flashs là qui nous aveuglent.
Après, je dis ça, mais moi, mis à part la taille, son design ne me dérange pas.
Si on la met debout, c'est plutôt sympa, hein, dans un intérieur un peu moderne, tout ça, ça passe inaperçu.
Faut juste avoir la place.
Ouais, voilà. C'est ça.
La Xbox Series X...
En espérant qu'elle fasse pas un bruit de Boeing 747.
Ah bah ça, j'ai oublié de le dire.
Parce que là, effectivement, vas-y.
La Series X, elle est silencieuse totalement.
Et comme la One X, en fait.
Et je dis ça même quand j'avais 7 jeux qui tournaient en même temps,
hein,
dont FF15, Monster Hunter World, Red Dead Redemption. Parce que quand j'ai fait mon coup de résume, j'ai mis des trucs gourmands.
Ah, bien bourrin,
j'ai essayé de la pousser un peu. Et
elle chauffe pas ni rien.
Niveau bruit, ça a pas bougé. Alors,
parce que le truc qui est au-dessus, là, ça sert vraiment à dissiper la chaleur, j'imagine.
Bah alors, tu peux la mettre aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale. Mais quand tu la mets à l'horizontale, il y a quand même un sens, parce qu'il y a des petits caoutchoucs d'un côté pour pouvoir la poser. Mais elle fait de la chaleur, mais moi, je suis pas collé à ma télé. Enfin, je suis pas collé à mon télé. Donc, en utilisation, le fait qu'elle dégage de la chaleur, bah je le ressens pas.
Bah, pire, ça fait un radiateur d'appoint.
Non, mais
et puis,
de toute façon, une console qui dégage de la chaleur, ça veut dire que son refroidissement fonctionne, en fait. C'est normal. Si vous jouez à vos consoles actuelles, que vous touchez les transfos ou les trucs comme ça, ils sont bouillants. Enfin, c'est
n'importe quel PC. Bah, de toute façon, un processeur, ça peut monter à 60.
Oui,
un graphique, ça monte à 70. Donc,
c'est toujours comme ça, oui.
Mais la Xbox One X, par exemple, moi, quand je l'allume, elle est quand même beaucoup moins chaude que la PS4. Hein. Mais vraiment. Ouais. Enfin, j'ai la PS4 Pro.
Je propose qu'on fasse un test thermique chez Poufi.
On met des radiateurs,
toutes les machines chez lui et puis on mesurera la température.
Il fera 50 degrés.
Mais oui, après un moment, quand je suis allé éteindre ma télé et je venais d'éteindre la Xbox Series X et j'ai passé la main au-dessus, effectivement, je sentais qu'il y avait eu de la chaleur.
Oui, ce qui est logique, hein, en même temps.
Mais oui, c'est pour
ça. Dégage de l'énergie.
C'est pas un défaut qu'il y ait de la chaleur. Au contraire, ça veut dire que, comme tu disais, que le système de refroidissement fonctionne.
Ils ont fait des consoles, c'est pareil pour la PS5, ils ont fait des consoles conséquentes justement pour mettre des ventilos conséquents aussi qui ont de la place pour refroidir. Dire
pour
refroidir le truc,
et faire respirer tout ça.
Pour justement limiter les problèmes de bruit, parce qu'on sait par exemple la PS4 Pro, tu joues à The Last of Us 2 sur PS4 Pro, t'as l'impression que ta console elle va sortir de ton meuble et s'envoler pour partir de l'autre côté.
C'est pour ça que j'ai un bon truc sonore maintenant pour justement cacher tous les bruits de la machine. Parce que...
Et donc voilà, la console est silencieuse et elle est grosse justement pour pas faire de bruit et pour qu'elle surchauffe pas.
Et le design en plus, il a une importance. La Xbox justement, elle a ce format classique, on va dire carré. Et en fait, ce format-là, pour refroidissement, il a été éprouvé depuis de nombreuses années via les PC. Alors que moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est le design de la PS1, qui est certes un peu plus hors norme. Mais du coup, est-ce que le refroidissement va bien fonctionner avec ça?
Mais pour l'instant, personne ne le sait. Il n'y a eu aucun test, hein, Digital Foundry.
Bah non, les
sites qui ont eu accès à la console.
Et puis les personnes qui l'ont eu, arrête pas de gueuler, du coup, tu peux pas entendre.
Voilà, les seules personnes qui ont eu accès à la PS5 pour l'instant, t'as les fameux youtubeurs japonais, Yata, Sugoi, etc. Et Geoff Keighley qui a lui juste montré la manette, donc on sait même pas finalement si le truc tournait pas sur un PC.
Peut-être
ou si...
que la manette fait du bruit.
Elle
est peut-être un rappeur qui l'a reçu aussi, je me souviens plus de son.
Travis Scott,
il l'a reçu.
Ça s'inquiète.
Mais c'est là où tu vois le sens des priorités.
Le seul truc que j'ai vu sur DualSense, enfin le seul truc, non j'exagère, elle fait plein de choses, c'est qu'il y avait les petits tirets lumineux juste en dessous pour dire quel joueur est au début, au milieu, troisième, quatrième. Ça, c'est plutôt bien vu, je trouve.
Moi, je la trouve... Enfin, aussi bien la PS...
Je pense qu'elle
la console,
elle est bien conçue, elle est bien conçue.
La console que la manette j'aime bien. Le seul truc, c'est que j'ai peur que ça passe pas sur mon meuble télé. C'est juste ça, l'inquiétude. Mais pour le reste, moi, je fais pas partie de ceux qui ont été repoussés par la console.
On va voir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est vraiment très grande, hein.
Ouais.
Comme ça...
Bah déjà, on se souvient quand ils ont annoncé la Series X... Les gens étaient là, ouais, c'est un frigo, elle est énorme, etc. Et quand tu la regardes.
La PS5. Putain, elle est petite en fait.
Quand tu la regardes à côté de la PS5, tu fais, elle est pas si grosse que ça. Et moi, tu vois, c'était un peu le truc que je me disais, parce que quand j'ai ouvert la boîte avec la Series X.
La boîte de Pandore.
Je m'attendais à être choqué par la taille de la machine, tu vois. Et c'est pas ça qui m'a choqué en fait, c'est son poids. Parce que.
Ah ouais, c'est si lourd que ça.
Elle est vraiment costaude, elle est dense, quoi, quand tu la prends. Elle pèse son poids. Mmh. La taille, alors après, oui, bah. Moi, j'ai toujours mis mes consoles à l'horizontale. Là, pour le coup, Après, là, elle a un emplacement temporaire, mais je l'ai mise à la verticale et ça choque pas tant que ça. Et en plus, je préfère même à la verticale parce que ça te permet de voir les petits cercles, tu sais, sur la face supérieure.
Ah, j'aime bien, un peu incurvé et tout ça.
En plus, la petite touche de verre que tu vois que sous un plus ou moins que sous un certain angle.
Bon, tes enfants vont pas la casser, vont pas mettre des trucs dedans. On va croire que c'est un pot de fleurs. Alors, tu sais, on va mettre de l'eau à l'intérieur. J'ai mis des tiges à l'intérieur.
Ma fille, elle a passé la phase de j'attrape tout et je veux tout mettre par terre. Mais là, mon fils, il rampe, enfin il marche à quatre pattes, et il essaye d'attraper les fils de tout. Putain, franchement, je suis en veille permanente dès qu'il j'ai un radar. Dès qu'il commence à s'approcher du meuble télé, je plonge sur lui, je le remets ailleurs.
Je le remets dans sa cage. T'imagines l'enfant.
Il aime pas ça le parc. Il en a un, mais il aime pas trop être dedans.
C'est un tour d'horizon plutôt complet.
On a hâte de jouer à la PS.
Exactement.
Et au jeu Next Gen.
Et maintenant, on va parler un peu avec Camille parce qu'on parle de consoles Next Gen, etc., qui arrivent très bientôt. Mais il y a le PC aussi qui se renforce à mort, là, qui montre ses muscles avec les cartes graphiques.
C'est vrai que.
Nvidia notamment. Et est-ce que tu penses que. Enfin, tu penses, c'est même sûr, ça va rivaliser avec les consoles Next Gen, c'est fait pour, de toute façon. Hein, ça sort pas par hasard.
Le PC, ça fonctionne pas vraiment par génération, en fait, parce qu'on se rend compte que la Next Gen, elle est là sur PC depuis au moins un ou deux ans avec les générations RTX Super. Mais là, c'est vrai que.
Cette suffisance, là, du coup.
Non, justement, en fait, je voulais. Franchement, on n'en parle pas dans le podcast, dans le sens le PC, c'est super ou quoi que ce soit. Enfin, j'ai pas envie de vous.
Ah, bah, ça y est, c'est dit. Ça sera sorti de son contexte.
C'est pas le but du sujet, mais c'est vrai que là, Nvidia, en l'occurrence, pendant l'été, a dévoilé donc leur nouvelle génération de cartes graphiques. Enfin,
comme par hasard, pendant l'été.
En l'occurrence, c'était en septembre. La génération 30X. Donc, on a eu trois modèles qui ont été dévoilés. Il y a la 3080, la 3090 et la 3070. Alors, on est clairement dans la next-gen, dans le sens où on l'entend. D'autant qu'en plus, Nvidia est encore plus que la next-gen, puisqu'ils prévoient déjà la 8K. Puisque le modèle le plus cher, donc le 3090, est fait pour être 8K ready. Donc déjà, rien que ça, on sait
rien que ceci. Mais les écrans 8K, ils sont où?
Si le Poufy a un écran 8K, qui ne sert à rien, mais il y en a un.
Justement, les écrans, évidemment, les écrans télé 8K, il y en a, ils sont hors de prix, mais il y en a quand même. Des moniteurs 8K, il en existe aussi très peu, il n'y en a qu'un seul, il n'y a qu'une seule marque qui en fait un, de mémoire, c'est Dell, qui en fait
un, ballot.
Et ils coûtent à 3000 euros. Donc c'est vrai que pour l'instant, la 8K, ça reste bien,
du 15 pouces.
Bien trop abordable. Non, c'est un 28 pouces de mémoire.
Tu dis 3000 euros par rapport à il y a 2-3 ans. Putain, on est content quoi.
Ouais, mais.
C'était quoi, c'est 50 000
c'est comme la 4K. Moi, je me rappelle, mon moniteur 4K à l'époque, c'était le tout début. J'avais pris le modèle vraiment bas de gamme pour la 4K. Sinon, c'était vraiment trop cher quoi. Et donc, eux, ils voient déjà à long terme sur la 8K, en sachant que leur 3090, c'est pas du tout une carte prévue pour le commun des mortels. Alors, certes, Poufy ici en a acheté une, mais c'est pas.
Non, mais Poufy, c'est pas le commun des mortels, exactement.
Mais voilà. Mais c'est pas une carte qui est. Ils l'ont
c'est
duré,
le summum.
Hein. Et le
c'est
PDG.
L'homme parfait.
Le PDG d'NVIDIA l'a dit lui-même, c'est pas une carte qui est destinée au grand public, c'est une carte qui est faite avant tout pour les développeurs, qui est pour les joueurs ultra exigeants qui veulent vraiment être dans le futur. Mais sinon, c'est vraiment pour les développeurs et pour le travail quoi. On va dire que la carte haut de gamme qui est prévue pour les joueurs, c'est la 3080, donc comme son nom l'indique, elle prend la place de la 2080, qui prévoit des taux de performance jusqu'à 30-40%, jusqu'à 45% de performance par rapport à la génération précédente. Donc c'est quand même un gap qui est assez important. Et surtout là où ils ont frappé fort, c'est qu'ils ont du coup, alors ça va vous paraître cher, mais c'est vrai qu'ils ont quand même baissé les prix par rapport à la génération d'avant d'une centaine d'euros. C'est-à-dire que la 3080 chez Nvidia, donc ce qu'on appelle la version Founder, elle est annoncée à 719 €. Ce qui est quand même
C'est plus cher qu'une console.
C'est 150 € de moins qu'une 2080 à l'époque où elle était sortie. On est toujours sur. Bah là, on est clairement sur de la 4K aussi. L'objectif, c'est de faire du 4K 60 FPS et plus. Là, on est plus dans du 4K 100 FPS pour la plupart des jeux. Et enfin, le dernier modèle, donc 3070, qui est le modèle le plus abordable, puisqu'il est annoncé à 519 € chez Nvidia, en sachant qu'il y a toujours les modèles constructeurs. Les autres constructeurs, donc ils proposent des modèles overclockés qui peuvent monter 100-200 € plus cher quoi. D'ailleurs il me semble que Poufy sur 3090 il a acheté une version OC, donc plus cher que la version Founder.
Il a pris la version en or Poufy à 25 000 euros
super goldé.
Ah, t'es ready pour les 10 années prochaines.
Vous voyez ce qu'on précise qu'il a aussi précommandé la PS5. Hein.
Et là, même problème, et du coup, même réussite que pour les consoles next generation, c'est-à-dire que bah, dès leur sortie, en fait, il y a eu des ruptures de stock assez conséquentes. Donc, que ce soit la 3080 haut de gamme qui est à 800 balles et ou la 3090 qui est à 1600 euros, elles sont toutes en rupture de stock chez Nvidia et toutes en rupture de stock chez tous les constructeurs participants, que ce soit chez Asus, que ce soit chez ROG, etc. Enfin, elles ont toutes été en pénurie. Le PDG d'NVIDIA évidemment a essayé de faire du damage control juste après pour dire oui, vous inquiétez pas, c'est pas le stock qui était réduit, c'était parce qu'on a une demande qu'on ne s'était pas attendu.
C'est pas celle-ci où il y a eu des problèmes de bots et de trucs comme
si,
ça.
Si. En fait, en gros, dès qu'ils ont ouvert le magasin, donc sur NVIDIA, là, vraiment pour les versions NVIDIA, il y a eu des vagues de bots qui ont acheté les cartes et qui les ont revendues par la suite sur des sites de revente style eBay à 200-300 euros plus cher, et maintenant encore on trouve des 3080 qui sont au double du prix initial, donc au lieu qu'elles soient à 800 elles sont à 1400 et plus. C'est assez hallucinant. Donc évidemment ils ont fait du damage control, ils ont expliqué voilà, on va système de vérification pour la prochaine fois, on va vérifier toutes les commandes qui ont été faites manuellement pour voir bah, qui est légitime ou non dans ces achats. Donc voilà, on salue ce geste, même si encore une fois on se demande si c'est l'aspect marketing où ils ont volontairement voulu créer de la demande et du coup proposer des stocks très légers pour créer une envie, ou alors si vraiment ils sont pas du tout attendus qu'il y ait une demande aussi forte et qu'ils se sont retrouvés
Non, je t'écoute religieusement.
Et donc bah voilà, même problème pour ça. Par contre, ils ont annoncé que pour la 3070 qui était prévue bah là le 15 octobre, en fait, ils l'ont repoussé de 2 semaines justement pour éviter ce souci-là et faire marcher à plein régime les chaînes de montage pour pouvoir en proposer beaucoup plus. Et là, cette fois-ci, le PDG d'NVIDIA a bien précisé, vous inquiétez pas, les 3070, il devrait y en avoir normalement pour tout le monde. En sachant, bah, évidemment, ça a laissé plus de temps à NVIDIA pour en faire, mais aussi à tous les autres constructeurs de pouvoir en faire, de proposer aussi leur version overclockée ou non. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ceux qui veulent se rentrer dans le monde du PC sans payer. Alors, ça reste cher, mais sans payer vraiment des grosses fortunes comme avec une 3080. En sachant que la 3070, c'est vraiment c'est entrée de gamme, milieu de gamme de chez Nvidia, mais c'est une carte qui est extrêmement performante, c'est-à-dire qu'elle dépasse l'ancienne génération de cartes la plus haute gamme, c'est-à-dire que la carte la plus haute gamme auparavant c'était la 2080 Ti, et cette 3070 dépasse la carte la plus haute gamme de la génération précédente. Donc c'est juste pour montrer le gap, c'est-à-dire qu'elle est 65% plus performante que la 2070, donc le modèle qu'elle vient de remplacer en fait. Donc c'est vraiment des gaps assez importants.
Elle est 100% plus chère aussi.
Bah non, justement puisque le prix il est en fait moindre, puisqu'elle était à 610 euros de mémoire la 2070, et là elle est à 519 la 3070.
D'accord.
Donc on a un prix réduit.
Donc on fait un effort.
Bah en fait là, avec une 3070, 3070, c'est un peu la porte d'entrée sur la 4K et pour faire.
C'est la version prolo, quoi.
Non, c'est une porte d'entrée très honorable pour faire de la 4K.
Ah oui, c'est déjà bien ça.
De toute façon, là, ils visent plus le 1080p, c'est fini. Enfin, toutes leurs cartes fait tourner dans les meilleures conditions de 1080p. Même le 1440p, la 3070 le fait amplement. C'est vraiment la 4K qui est visée, que ce soit le entrée de gamme ou le très haut de gamme, quoi. Donc voilà, eux, ils sont déjà dans le futur avec la 8K. De l'autre côté, il y a AMD qui, eux, bah, ils sont un peu en train de patiner dans la semoule au niveau des cartes graphiques, mais ils ont fait des annonces petit à petit aussi sur les processeurs, puisque AMD équipe maintenant plus de 25% des joueurs PC. C'est une étude Steam qui a été parue la semaine dernière. Vous pouvez d'ailleurs vérifier tout ça très facilement. Et maintenant, bah voilà, on sait que AMD grappille un peu de l'espace commercial chez Intel.
Et c'est bien leur processeur ou pas ?
Bah c'est pas qu'ils sont mieux, c'est que du coup, ils sont moins chers. Et il y a un rapport qualité-prix qui est beaucoup plus intéressant que chez Intel. Parce qu'en fait, Intel, ils sont reposés sur leurs acquis. Ils se sont dit, bon, bah, on domine le jeu, on domine le game, etc. qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre ? Bah, on fait des petites avancées.
On domine la game.
La game, ouais. Donc en fait, ils sont vraiment reposés sur leur laurier de trop nombreuses années. Donc AMD, bah, ils ont pu sortir des processeurs qui sont très performants à des prix beaucoup moindres. Et donc voilà, c'est maintenant il est possible d'avoir des PC vraiment très haut de gamme qui font tourner la 4K dans de très bonnes conditions sans dépenser 2000 euros comme c'était le cas encore il y a 3 ans.
Mais c'est justement cette concurrence qui va faire que ça va baisser aussi.
Ouais,
c'est aussi bien qu'AMD rentre dans le jeu des processeurs. Ouais. Pour pouvoir les concurrencer, quoi.
Et du coup, maintenant, aujourd'hui, plus qu'auparavant et plus que jamais, vous pouvez vraiment avoir des PC...
Un PC de guerre.
Voilà, exactement, surpuissant, sans dépenser vraiment des milliers d'euros, quoi.
C'est quoi, à peu près, pour un PC de très bonne qualité, mais...
De très bonne qualité.
Pas forcément le truc de top du top, mais...
Franchement, pour 1200 euros, t'as un PC qui tient la route pendant facilement 5 ans, ouais. Pour jouer à tous les jeux AAA dans des meilleures conditions, quoi. D'accord. Puisqu'une 3070, maintenant, si tu l'achètes directement chez Nvidia, elle est à 500 boules. Et du coup, tu te retrouves avec une config qui est vraiment, vraiment, on va dire, abordable. Surtout qu'un PC, en fait, tu fais pas que de jouer, quoi. Donc,
oui, c'est ça.
Un joueur console, généralement, il a soit un Mac, soit un PC à côté pour faire autre chose. Et bah là, t'as les deux en un. Donc finalement, tu peux facilement t'y retrouver, quoi.
Mais j'ai une question.
Ok, Camille, Romain, vas-y.
Parce que moi, je suis très, très éloigné du monde du jeu PC. C'est pas du tout mon domaine. On sait que Microsoft, donc, ils font un peu le forcing ces derniers temps. Ils sont revenus un peu plus en avant sur le jeu PC. Donc, il y a le Game Pass sur console qu'on connaît.
Ouais, tout à fait.
Et il y a aussi le Game Pass sur PC.
Ouais.
Et comment il est perçu par les joueurs PC? Est-ce qu'il est accepté? Est-ce qu'il fait parler?
Non, il est très bien accepté. D'ailleurs, généralement, il y a vraiment des jeux très récents même qui sortent. Par exemple, ils ont frappé fort avec... Crusader Kings 3 qui était présent donc à la sortie du jeu directement sur le Game Pass, et du coup il y a eu pas mal de publicité là-dessus parce que c'est un jeu qui marche extrêmement bien sur PC. Il a été top vente Steam pendant depuis sa sortie, et donc ça a été très bien accueilli justement pour le coup. Microsoft, ils ont vraiment frappé fort avec ça, et on sait qu'ils vont faire ça avec d'autres jeux, donc ça marche plutôt bien. Et tu fais bien de souligner ça aussi, on l'a remarqué pendant la conférence PS5, enfin PlayStation, il y a de plus en plus de jeux qui sont promus à sortir aussi sur PC. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, quoi.
C'est vraiment, le PC est plus trop vu comme une plateforme concurrente, en fait. Pour les constructeurs, c'est presque une plateforme complémentaire qui te permet de toucher avec un public encore plus vaste avec tes jeux. Il y a pas mal au fur et à mesure de la génération là qui se termine, il y a pas mal de cloisons qui sont tombées. On a vu Microsoft sortir des jeux sur Switch, on a vu Sony sortir des exclus sur PC. Et globalement, il y a quand même des changements, et on sent l'influence du côté service, tu sais, la nécessité d'aller chercher les joueurs là où ils sont, ce qui n'était pas forcément la manière de procéder auparavant. Oui, je te posais la question sur le Game Pass, parce que moi, j'ai découvert qu'il y avait des guerres entre les fans de Steam et les fans de l'Epic Game Store. C'est un truc qui me dépasse.
Non, alors, mais il ne faut pas minimiser la propension de l'être humain à détester type en face. C'est le moteur de l'histoire.
C'est un truc qui me dépasse un peu. Je me disais peut-être que certains vont rejeter totalement le Game Pass en disant non, on veut nos jeux sur Steam.
Pour le coup, ce qui est souligné en fait par rapport à Epic, c'est au-delà du fait que certains jeux
sont pourris.
Ouais, c'est que l'interface est pourrie, et surtout elle est à des années-lumière des optimisations de Steam. Tu me diras, Steam est beaucoup plus ancien.
Ils ont quand même 10 ans d'avance, c'est facile. Voilà.
Mais du coup, on peut se dire que pour une plateforme, donc Epic, c'est quand même un éditeur de jeux qui est multimilliardaire, qui a vraiment les moyens d'améliorer sa plateforme.
Ils peuvent faire beaucoup mieux que ça.
Peuvent faire beaucoup mieux. Ouais. Et en fait, c'est vrai que ça peut être très gênant pour plusieurs raisons. Déjà, au niveau des téléchargements, c'est vrai que sur Epic, généralement, chez moi, j'ai remarqué ça, les téléchargements sont plus longs généralement que sur Steam. Donc déjà ça
ne serait-ce qu'afficher les jeux, déjà les menus et tout, c'est hyper lourd, quoi.
Même avec la fibre ici,
c'est d'une lourdeur incroyable.
Ouais, même avec la fibre ici, qui est vraiment une fibre de tueur, t'as vraiment pour afficher ta bibliothèque de jeux, c'est très long.
Alors que Steam, c'est instantané, hein, quasiment. Ouais. Maintenant, c'est vraiment instantané.
T'as pas ce système de c'est tout con, mais t'as même pas un système de screenshot. Enfin, le truc le plus basique que Steam a depuis 10 ans, t'as même pas cette possibilité-là. Enfin, c'est un peu chiant, quoi. Et surtout, en fait, ce qui gêne le plus, je pense. Je me fais pas avocat des gens qui font ce type de guerre-là, mais vraiment, ce qui est gênant aussi, c'est le système de devoir multiplier les plateformes, en fait. Comme Steam a été dominant sur PC depuis quasiment 15 ans maintenant, t'as toute ta liste d'amis dedans, t'as tous tes jeux dedans, et
tu peux fusionner, je crois.
Avec GOG, tu peux fusionner, mais GOG, justement, ils ont l'intelligence de vouloir...
Attends, t'es sûr qu'avec Epic, tu peux pas fusionner?
Non,
tu peux. Ouais, me semblait.
Mais avoir un store, une plateforme en position de monopole comme ça, ça joue pas pas en la faveur des...
Non, mais ça, c'est sûr et certain.
En la faveur des joueurs. L'arrivée, ouais. l'arrivée de Epic là-dedans, ça a mis un coup de pied dans la fourmilière et ça a permis d'avoir accès à des jeux gratuits.
Non, là je parle purement du côté pratique. Hein, c'est...
Et ça se ressent aussi sur console, hein, une concurrence acharnée, c'est le consommateur qui gagne. Bien Regarde, sûr. Quand ils ont annoncé le...
la Dreamcast 2.
Ouais. C'est un peu exagéré de dire ça, mais l'équivalent du Game Pass sur PlayStation, je me rappelle plus, PlayStation Now Collection.
Ah, PlayStation ça. Plus Collection.
Alors, c'est un catalogue qui est beaucoup plus restreint. Mais malgré tout, avec ton abonnement tel qu'il existe actuellement, bah, tu auras quand même accès à un catalogue de grands jeux sans payer plus cher. Donc tu vois, et ça, ils l'ont pas sorti de nulle part pour faire plaisir, hein. C'est parce que y avait Microsoft qui mettait vachement le forcing sur le Game Pass.
Il va pas être plus cher, le
non c'est inclus dans ton
PlayStation Plus. Il va pas augmenter.
Ils l'ont pas annoncé en tout cas.
Ils l'ont pas annoncé pour l'instant. Attendez, on passe la période de lancement.
Non, mais j'ai dû rêver, j'ai cru qu'ils avaient fait une petite
annonce. Non, mais mine de rien, c'est une nouveauté qui a été ajoutée, qui rend service aux joueurs, et si elle est ajoutée, c'est pas pour rien. Donc tu vois, j'imagine que sur PC, c'est pareil, le fait qu'il y ait de la concurrence, ça fait bouger les choses et ça permet ça fait que Steam ne reste pas sur ses lauriers et en position de.
Oui, mais
de
ça
mettre
change effectivement un paramètre, parce que Epic est arrivé, a mis des gros sous pour aussi récupérer des exclus PC qui du coup ne sont pas disponibles forcément sur Steam, et c'est vrai que les joueurs du coup sont obligés d'avoir plusieurs plateformes sur une machine qui était censée justement être le truc unique qui rassemble à peu près tout.
C'est pas la mort, je trouve.
Non, c'est pas la mort, mais
it is not the dead,
tu bouscules des habitudes aussi.
Oui, oui.
Parce que justement, ça préfigure pas, quand tu vois toutes les cartes Nvidia et compagnie qui sont surpuissantes, ça préfigure pas du futur. Je sais qu'on dit ça à chaque génération, mais est-ce que tu vas pas fusionner un jour avec l'application PS5, l'application Xbox sur ton PC ? Et adios les consoles.
Ça pourrait. Bah, Microsoft, voilà, tu vois que leur ambition, elle est clairement
parce que là, ça commence déjà un peu.
Ah oui, bah on y va progressivement. Le service, c'est vraiment le nerf de la guerre maintenant, de plus en plus.
Moi, la facilité avec laquelle justement des constructeurs ou des grands éditeurs maintenant rachètent à tour de bras des studios, c'est incroyable. Bah, c'est un truc qu'on n'a jamais vu avant.
C'est pour ça qu'ils le font. Hein. Mm-hmm. Tu vois, d'un côté, t'as Google qui lance Stadia, dont le but, c'est d'être présent pareil sur plein d'écrans différents. T'as Amazon qui vient d'annoncer Luna.
Ouais. Luna, c'est de l'autre côté.
Luma
Nutella.
Et t'as Microsoft avec le Game Pass qui vient d'arriver sur les smartphones en Android.
Ah,
une fois qu'ils ont résolu le problème avec Apple, avec Apple, ça viendra certainement sur iOS.
Ça va commencer.
Mais l'idée, c'est de genre quand t'as une Smart TV, en plus de télécharger ton application Netflix ou YouTube, etc., bah télécharger ton appli Xbox ou ton appli PlayStation. Mm-hmm. Parce qu'il me semble que le PlayStation Now était aussi dans certains, peut-être pas dans tous les pays, mais dans certains, je crois que l'application PlayStation Now était dispo sur certaines télé Sony. Je suis pas certain à 100%, mais je crois. Mais c'est ça vers content. Tu vois, Steam avait essayé un peu avec les Steam Machines ou ils y sont pas forcément parvenus. Mais oui, le service, c'est l'avenir. Alors après, si on ira jusqu'au point où
il y aura plus de
machines, un appareil et tu auras genre 15 services différents en même temps avec ses propres exclus, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, les différents camps sont en train de renforcer leurs armées pour avoir le contenu le plus
vaste possible.
Ne vous inquiétez pas, s'il y a un truc central, il y aura toujours Nintendo à côté qui fera son petit bonhomme de chemin.
Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire.
Qui ne fera pas attention à ce qui se passe.
Et Nintendo dans tout ça. Voilà.
Je pense qu'ils continueront à exister à côté. Enfin, si la philosophie qui règne dans l'entreprise depuis des décennies continue à exister après le départ des grandes figures qui va arriver dans les prochaines années, ils continueront dans leur coin à faire ce qu'ils veulent parce que personne ne leur imposera de modèle.
Et c'est parce que si à la base ils sont plus... C'est pas une société high-tech dans son ADN à la base Nintendo. C'est presque finalement plus une société, un fabricant de jouets qui fait
des artisans.
On le voit encore avec Mario Home Live, là, etc. Mario Kart Home Live. Voilà. Ouais. C'est du jeu vidéo. Ils aiment bien rester dans ce domaine-là.
Ils sont clairement pas dans la même optique. Quoi. Voilà pour le thème 2, je pense.
Ben voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de ce thème 2, effectivement. Mais de toute façon, suite au prochain numéro, on attend d'avoir la PS5 pour pouvoir un peu comparer.
Ah
ben
là, les
tout
nouvelles
ça
machines, on va en parler, oui.
C'est y jouer, et donc d'ici la fin de l'année, oui, vous en entendrez beaucoup, beaucoup parler, évidemment. Et on fera les rapports nécessaires dès qu'on aura tout ça entre les mains, évidemment. Et si on passait au test de la semaine ? Les tests de la semaine, mes amis, ça va être quoi ? Bah, c'est simple. Crash Bandicoot 4.
It's about time.
Star Wars Squadron.
Il était temps.
Et oui, il était, voilà. Oui, il était très, très, très temps, oui.
Évidemment, Star Wars Squadron. Qui, bon, on commence par Star Wars Squadron avec,
okay,
avec
Camille,
avec Camille qui l'a testé, le pilote.
Et qui, ouais, est aux couleurs de l'Empire, évidemment.
Exactement.
Bah, moi, en plus, bah, je suis un peu le fan de Star Wars. De la
qu'en pensez-vous?
Mais c'est vrai que moi j'étais très content à l'annonce du jeu, surtout qu'il a été annoncé par surprise à l'époque. Donc,
exact.
Il y avait une petite fuite, mais on savait pas, ouais, à quoi elle correspondait.
J'ai même plus une fuite.
Non, mais surtout que le jeu, en fait, il est sorti très peu de temps après l'annonce. Finalement, il y a eu 4-5 mois maximum d'écart, donc c'est plutôt sympa que ça arrive pour une fois.
Et c'est fort qu'ils aient réussi à le garder secret pendant 6
mois. C'était Projet Maverick, donc on savait pas du tout ce que c'était. Enfin, ça, même pour un fan de Star Wars, ça évoquait rien de spécifique.
Bah, quelqu'un du studio aurait pu fuiter le truc, comme ça arrive chez Ubisoft. Quasiment à chaque fois, d'ailleurs.
Donc, qu'est-ce que c'est que Star Wars Squadron? Bah, c'est un saga, le digne héritier des sagas Star Wars TIE Fighter, Star Wars X-Wing et Star Wars X-Wing vs TIE Fighter.
Je me souviens de ça, c'est vieux, la vache.
Mais c'était vieux, mais pourtant il y a encore beaucoup de gens qui l'avaient dans leur cœur et qui désiraient ardemment avoir de nouveaux épisodes. Surtout que faut vraiment. Malgré le titre, ça n'a rien à voir vraiment avec les Star Wars Squadron qu'il y a eu dans les années 2000.
De chez Factor, en fait,
voilà, exactement, parce que ces Star Wars Squadron-là étaient, on va dire, une portée plus arcade, avec notamment une vue TPS, une vue aussi FPS présente, mais beaucoup moindre. Enfin, on avait vraiment le choix. Et,
on testait la possibilité, et effectivement, c'était plus dirigiste, ouais, dans sa structure.
Et beaucoup de combats et de batailles au sol, on va dire atmosphérique, ce qui n'est pas du tout le cas dans ce Squadron, qui lui, vraiment, prend contre-coup et s'inspire de TIE Fighter et de X-Wing. Comme son nom l'indique, vous pouvez diriger donc, soit au choix les forces de l'Empire ou de la Rébellion. D'ailleurs, en fait, le jeu nous propose deux campagnes dans chacun des deux camps.
Choisis ton camp, camarade.
De quoi?
Choisis ton camp, camarade.
Et du coup, bah, vous commencez donc l'introduction du côté de l'Empire pour vous apprendre un peu à jouer. Et comme l'a confirmé Thomas à midi, on a parlé un peu, c'est vrai que le jeu est assez compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu commences, tu t'attends vraiment à un jeu, en général, ce qui est estampillé Star Wars, tu te dis, bon voilà, surtout que c'est Disney derrière, ça va peut-être pas forcément être de la grosse simulation. C'est pas non plus Flight Simulator, attention, je dis pas ça. Mais il y a quand même un côté assez, assez complexe. C'est-à-dire que même dans l'introduction, dans le tuto, tu meurs une bonne paire de fois.
Je confirme.
C'est, ouais, bon, pas à te faire rager, à te faire quitter,
mais parce qu'il y a des checkpoints en plus.
Exactement.
Mais
tu apprends vraiment pour mesure, quoi.
Ouais, pour te montrer que, voilà, conduire un vaisseau,
c'est pas si simple que ça.
Surtout qu'ils veulent vraiment vous montrer les forces et les faiblesses de chacun des vaisseaux. Donc, vous commencez avec l'Empire, ensuite vous switchez très rapidement avec la Rébellion pendant 5 chapitres, et ensuite vous re-switchez vers l'Empire, et ainsi de suite. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment un contraste qui est tout doux, en fait, entre chaque mission. En fait, vous n'avez pas. Ils n'arrivent pas avec leurs gros sabots pour dire bon, maintenant vous allez jouer l'Empire ou maintenant vous allez jouer la Rébellion. Vraiment, vous avez par une petite introduction, une vidéo, vous allez faire le switch entre les deux factions, et ça se passe vraiment très bien. En cela, le scénario fonctionne plutôt bien, surtout pour les fans de Star Wars. On apprend pas mal de petites choses, et c'est intéressant de voir qu'ils sont, malgré le fait que ça a été racheté par Disney depuis plusieurs années, comme vous le savez sûrement, Disney a fait table rase du passé et a supprimé totalement ce qu'on appelait l'univers étendu. Donc l'univers étendu, c'est tout ce qui était au niveau des bouquins, etc., qui avait été écrit. Il y a de nombreux romans Star Wars. Donc ils se sont dit, bon, on va faire table rase du passé, on va tout supprimer. Et pourtant, dans ce Star Wars Squadron, on retrouve des éléments de l'univers étendu qui appartenait à, enfin, qui était avant le rachat de Disney, en fait. Donc on trouve des mentions à des personnages de romans, etc. Donc c'est plutôt agréable à ce niveau-là. On apprend pas mal de choses. En fait, le jeu se passe à la fin du retour du Jedi, donc on apprend pas mal de choses. En termes de scénaristiquement, ce qui se passe après.
Faut dire que la période est assez vaste, mais voilà, il y a entre les épisodes 6 et 7, donc on peut y raconter beaucoup de choses.
Bah, techniquement, il s'y passe environ 20 ans ou plus, donc c'est vrai qu'il peut se passer pas mal de choses. Donc là, on apprend beaucoup plus sur les héros, sur les forces en présence. Et encore une fois, ça s'inspire beaucoup des romans, parce qu'en fait l'Empire, c'est plus vraiment l'Empire. En fait, c'est une confédération de chefs de guerre. Ils se tirent chacun dans les pattes pour savoir qui va avoir le contrôle absolu. Ils fonctionnent tous avec leurs petits égos, et en fait on se rend compte qu'en se tirant dans les pattes, finalement personne n'arrive vraiment à prendre le dessus et prendre la tête.
C'est un remake d'Astérix chez Lego, en fait.
C'est ça. Non mais c'est vraiment, enfin scénaristiquement c'est vraiment intéressant. Du côté de la rébellion, bah là pour le coup, bah la mission est toujours la même, hein, se battre pour la liberté et vaincre de quoi ?
J'adore Star Wars.
Ça n'inspire pas Traz, le combat pour la liberté, il est très au-dessus de ça.
Et voilà, donc au niveau du scénario, voilà, bon, c'est pas non plus extraordinaire, mais pour un fan de Star Wars, en tout cas, c'est très, vraiment digne d'intérêt. Franchement, si vous aimez Star Wars, je peux vous conseiller vraiment pour la campagne solo. Évidemment, c'est aussi un jeu qui a avec une portée multijoueur. Comme je l'ai souligné dans mon test, donc, le jeu est bon, ça c'est sûr et certain, mais il y a quand même des petits défauts, notamment un manque d'épique. Epic, pas le studio, hein, mais
Epic Style
QE. Puisque, contrairement à d'autres jeux comme Star Wars X-Wing Alliance, qui est sorti maintenant il y a plus de 15 ans, où on vous proposait des combats de vaisseaux capitaux gigantesques, notamment des Super Star Destroyers, etc., il n'y a plus du tout ça en fait là dans Squadron, donc c'est un peu dommage, puisque le jeu est moins épique qu'un jeu qui a plus de 10 ans, donc c'est un peu dommage. On se contente de Destroyer Stellaire classique, donc on n'a pas les super vaisseaux. Vous savez, les Super Star Destroyers, tu connais un peu Star Wars, mais c'est les vaisseaux vraiment gigantesques, vraiment juste en dessous de l'étoile noire, et on n'a pas des combats de vaisseaux vraiment capitaux, et c'est un peu dommage, ça retire un peu de force. Pareil au niveau multijoueur, ils nous ont fait un mode qui est intéressant, c'est ce qu'ils appellent combat de flotte, et en fait dans le mode combat de flotte t'as qu'un seul croiseur par camp. Donc quand tu t'imagines Star Wars, tu t'imagines la bataille d'Andorre avec plein de vaisseaux de chaque côté, plein de croiseurs, etc., plein de chasseurs dans tous les sens, et en fait là c'est vraiment plus restreint comme échelle, en fait l'échelle est beaucoup plus restreinte.
Justement, c'est ce que j'allais dire, si je me fais l'avocat du diable, ils ont essayé de placer justement l'histoire au niveau véritablement des personnages et pas au niveau d'empires qui s'affrontent, voilà. Ouais, on a plus le quotidien entre guillemets des pilotes et leur vie vraiment, ouais, de soldats d'un camp dans un camp et dans l'autre, plus que vraiment ce conflit gigantesque, ouais, à l'échelle de planète entière. Ça ne va pas forcément plaire à tout le monde, mais en tout cas il y a un parti pris au niveau de ce qui est raconté.
Et ils avaient peut-être pas le budget d'un Jedi Fallen Order non plus, tu vois, c'est pas présenté comme un Star Wars blockbuster triple A.
Non, et puis ça peut être intéressant justement de changer d'échelle, même si moi j'ai pas fini du tout la campagne pour l'instant, mais je trouve qu'en termes d'acting et de synchro labial, c'est un petit peu dommage, parce qu'il y a plein de petites choses où tu sens qu'effectivement le budget n'était pas forcément aussi conséquent que d'habitude. Je ne sais pas si du coup ça a joué sur l'ampleur que pouvait avoir le titre, mais tu sens dans tout un tas de petits détails que ça aurait pu être un petit peu plus peaufiné.
Bah en fait, le truc, c'est qu'ils ont le moteur graphique fait un peu office de cache-misère, dans le sens où il est tellement somptueux et tellement agréable à l'œil. Donc c'est le Frostbite qui fonctionne aussi sur Battlefield.
Ah, ton petit chouchou.
C'est un moteur qui est hyper bien optimisé.
Sur FIFA aussi.
Comme je le disais, Squadron, il tourne vraiment sur n'importe quel PC. Il tourne vraiment, 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 vraiment bien. C'est-à-dire que je suis jamais descendu en dessous des 100 FPS, même avec un petit portable. C'est assez impressionnant à ce niveau-là. Le jeu est vraiment beau. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je les trouve vraiment beaux au niveau des visages. Alors je parle pas des animations et tout, mais je parle vraiment au niveau des textures, des visages, etc., de la peau, du grain de peau, etc., qui ressort. Les textures des sols, c'est quand t'es dans les hangars. Les hangars impériaux en part rebelle, enfin t'as vraiment le côté un peu brillant, etc. Enfin, il y a vraiment un gros travail sur les textures qui est fait. Effectivement, ça fait un peu office de cache-misère, parce que du coup, ça cache le fait que, enfin, ça cache à moitié la synchro labiale est pas forcément folle, que l'acting à côté est pas forcément fou non plus. Mais t'as quand même un côté, en fait, le manque d'épique et certains défauts sont camouflés par le fait que le moteur graphique fonctionne vraiment bien. Et du coup, même quand t'as un combat à petite échelle, les explosions sont tellement belles et.
Non, puis à côté de ça, t'as de bonnes sensations de pilotage aussi.
C'est ça, oui. Oui, c'est ça.
Tu le disais en intro, t'as des vraies différences entre le pilotage d'un TIE Fighter ou d'un X-Wing ou ce genre de truc, et c'est appréciable de pas réussir justement à tout de suite l'avoir en main, d'avoir un petit temps d'adaptation pour en maîtriser justement les subtilités, surtout qu'il y a différents modes pour les deux camps. Chaque vaisseau peut passer dans un mode plus offensif, défensif, qui met l'accent sur le bouclier, et du coup il faut jouer quand même avec tout un tas de paramètres, ce qui complexifie un petit peu la tâche. Et moi j'ai apprécié justement sentir la marge de progression finalement dans la prise en main du jeu.
Je crois que tu l'as pas testé, Camille, mais en plus moi j'ai entendu beaucoup de bien de la VR, de la compatibilité du jeu
avec effectivement tout le monde en dit beaucoup de bien.
Ça pour un jeu Star Wars, c'est un peu le rêve, tu vois, parce que évidemment on pourra jamais se retrouver dans des vaisseaux sauf à Disneyland, un peu de choses près, mais ouais, la VR et Star Wars, c'est un mariage parfait presque, et visiblement le jeu le fait bien.
Bah, là où ils ont réussi un coup de force, c'est au niveau de l'ascension de vitesse, quoi. En fait, ils ont repris le même moteur que Battlefront 2, et dans Battlefront 2, bah, l'un des gros problèmes, c'est qu'en fait, quand vous conduisiez un vaisseau spatial, vous n'aviez pas cette sensation de vitesse. Alors, est-ce que c'était lié au fait que bah, le jeu était à la troisième personne en vaisseau, et du coup, bah, forcément, il fallait trouver des effets visuels pour te montrer que t'es en vitesse, donc bah, dans l'espace il y a une espèce de petit
très blanc,
les très blancs, voilà, donc là ça y est toujours, mais le fait d'être à la première personne obligatoire, je précise obligatoire dans le test, alors certains m'ont dit pourquoi justement tu l'as mis dans les points positifs, bah justement je pense que c'est un pari assez risqué dans le fait que bah, y a plein de gens qui s'y retrouvent pas forcément à la première personne. Moi je m'y retrouve beaucoup, je trouve ça plus immersif sous un jeu Star Wars, et justement bah, le côté vitesse est décuplé, le fait d'être vraiment voir une vue cockpit, t'as vraiment cette sensation de vitesse qui est assez impressionnante, et surtout dans les vaisseaux de l'Empire qui sont censés être plus rapides, t'as vraiment le côté vraiment je trace, j'ai mon accélération, et tu sens vraiment la différence entre le mode classique de vitesse et quand tu mets le bouton accélérateur, quoi. Et ça je trouve c'est vraiment un des bons points du jeu, c'est vraiment les sensations de pilotage qui sont extrêmement bonnes, et surtout qui sont vraiment différentes d'un vaisseau à un autre. Il y a 8 vaisseaux au total qui sont pilotables, peu importe le camp, enfin 4 dans chacun, donc 8 en tout, et vous avez vraiment donc des sensations qui sont très bonnes. C'est un jeu qui a des défauts, je l'ai souligné, hein, notamment au niveau manque d'épic, etc. Le manque de mode multijoueur aussi, puisque finalement il n'y en a que deux. Vous avez aussi certains bugs encore qui sont un peu présents, notamment certains chapitres où il y a un script qui ne se déclenche pas forcément au bon moment, et du coup bah, vous êtes un peu bloqué et être obligé de recommencer la mission en boucle. C'est un peu dommage, ouais. Mais au-delà de ça, ça reste un bon jeu. Voilà, je lui ai mis 7 sur 10.
7 sur 10.
C'est ce qu'il mérite. C'est un bon jeu, sans plus, mais c'est un jeu qui fera plaisir, en tout cas aux fans, et surtout aux gens qui attendaient...
Un jeu pour les amateurs du genre.
Bah, c'est vrai. Pour le coup, c'est vrai. Parce que c'est
pour les fans de Star Wars, surtout.
Il y a beaucoup de gens qui attendaient les simulations spatiales. Finalement, il n'y a pas tant que ça, et c'est un jeu qui bah, réussit son pari à ce niveau-là, quoi.
Ok, bah voilà, très bien, on a fait le tour. Donc, si vous voulez lire le test de Camille, allez-y, c'est sur gameblog.fr. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et si vous trouvez que sa note est trop sévère ou trop pas sévère.
Trop laxiste.
Exactement. On passe tout de suite à l'autre test de la semaine qui nous a marqué.
Bah ouais.
Crash Bandicoot 4.
Il était temps.
It's about time.
It's about time. Crash qui revient enfin pour un quatrième épisode numéroté qui a été développé cette fois-ci par Toys for Bob, qui nous avait déjà signé le portage Switch de la compile Insane Trilogy, et qui avait aussi développé ce jeu cher au cœur de Camille qui est retombé en enfance. C'était la Spyro Reignited Trilogy. Là pour le coup, c'est un nouvel épisode en bonne et due forme qu'on avait déjà pu d'ailleurs essayer il y a quelques semaines, qu'on avait fait rager plus d'un quand on avait pu l'essayer dans cette même pièce. Et qui m'avait amené à avoir quelques petites réserves, et des réserves qui ont été principalement levées en fait dans la version finale du jeu, parce que Crash Bandicoot 4, c'est un très bon épisode finalement, c'est un vrai retour en grâce, et s'il fallait attendre près de 20 ans pour retrouver l'ex-mascotte non officielle de la PlayStation dans une si bonne forme, j'ai envie de dire que ça valait plutôt le coup, parce qu'on retrouve vraiment tous les fondamentaux de la première trilogie. On va faire comme si les errances post-Crash 3 n'avaient pas existé.
Post-Covid.
Toutes ces tentatives de gameplay un petit plus ou moins bizarres. Là, on revient vraiment sur de la plateforme à l'ancienne, avec ce défilement assez caractéristique des stages de la série où on a ou une vue de derrière ou une vue de côté avec la caméra qui nous suit en permanence. Tous les fondamentaux sont là, les caisses de fruits Wampa, les ennemis qu'on connaît, l'attaque tourbillonnante. Mais heureusement, Toys for Bob a eu la bonne idée de rajouter un nouvel élément de gameplay, en fait 4 nouveaux éléments de gameplay qui s'appellent les masques quantiques, qui sont donc des nouveaux masques que vous allez récupérer au fur et à mesure de l'aventure. C'est vraiment... le rythme est assez facile à deviner dès lors qu'on est rentré un petit peu dedans. On a un monde au bout duquel on va finir par trouver le masque qui va trouver toutes ses applications de gameplay dans le monde d'après, et ainsi de suite jusqu'à arriver au boss de fin. Et en fait, ces 4 masques apportent des nouvelles mécaniques véritablement. Vous pouvez par exemple ralentir le temps pour récupérer des caisses qui vont elles apparaître et disparaître bien plus vite à vitesse réelle. On a un masque qui fait office de switch en fait, qui va faire apparaître ou disparaître des éléments du décor, donc il va falloir alterner entre les deux. Un qui vous permet de défier la gravité et donc de choisir si vous allez marcher au plafond ou au niveau du sol. Bref, tout ça apporte pas mal de renouveau mine de rien, puisque en plus d'avoir tous les fondamentaux de la série qu'on aime beaucoup et qui font parfois un petit peu rager, hein, parce qu'il y a des moments où dans Crash on a quand même des chutes
qui
ne sont pas forcément très legit, mais ça passe parce qu'en plus on a justement le choix au début Et j'ai hâte de voir comment Camille va s'en sortir, puisque on en a déjà discuté. Vous avez deux modes, en fait, le mode rétro, qui est donc celui pour lequel tu vas opter si tu tires ta parole, mon cher Camille. Exactement. Qui marche à l'ancienne avec un compteur de vie. Dès que vous tombez, que vous mourrez, vous perdez une vie, vous en récupérez une tous les 100 fruits ou un pas. Et l'autre, moderne, qui est quand même vachement plus accessible, dans lequel vous avez un compteur de vie qui s'incrémente et qui, en fait, s'en fiche complètement. Vous pouvez terminer un niveau en ayant perdu une trentaine de vies, ça m'est arrivé, c'est pas très grave, en fait, ça va juste vous empêcher d'avoir une des gemmes qu'on peut récupérer à la fin du niveau, mais ça va vous permettre de recommencer infiniment un checkpoint.
Mais tu connais pas les bonnes choses, c'est pour ça.
Et pour le coup, c'est quand même pas volé, parce que le jeu est fidèle aussi à la série sur sa difficulté. On commence gentiment, mais quand même assez rapidement, on se retrouve face à des phases qui vont nécessiter d'enchaîner quand même pas mal de moves assez fins, surtout que Crash fait partie de ces héros qui n'ont pas de barre de vie. Hein. Tant qu'on n'a pas le masque qui nous accompagne, un hit et c'est terminé. Et c'est quand même assez compliqué. C'est un jeu qui est, en plus, très généreux. Vous avez déjà la difficulté de base, mais c'est un titre qui s'est inspiré de tout ce qui s'est fait dans les plateformers en termes de bonus, on va dire, ces 15 dernières années. Il y a énormément de choses variées, en fait, à faire dans Crash. Vous avez d'abord toutes les gemmes qu'on avait l'habitude de récolter dans les niveaux qui sont de retour. Donc, pour peu que vous récoltiez 40%, 60%, 80% des fruits Wampa d'un niveau, vous allez débloquer des gemmes, vous allez en débloquer d'autres si vous arrivez à le finir en moins de 3 vies, ce genre de trucs. Il y a plein de petits défis pour chacun des niveaux du jeu.
Les caisses aussi, non? Toujours?
Parce que dans... Alors non, les caisses n'existent plus. Tu n'as plus le bonus du 100%. D'accord. Je ne sais pas pourquoi, c'est un truc qu'ils ont retiré. Au début, j'ai justement... Ah si, pardon, je te dis une bêtise, mais ça débloque autre chose.
D'accord.
Mais tu as effectivement, oui, si, le compteur de caisses de... qui est présent depuis le premier épisode, si je dis pas de bêtises.
Oui.
Mais en plus, à côté de ça, on a des bonus dans les niveaux déjà classiques, puisque vous avez par exemple une vieille cassette VHS à récupérer qui va vous emmener vers un niveau rétro vraiment purement 2D et très 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 hardcore. Mais pour récupérer la cassette en question, il faut la récupérer sans perdre de vie. Et des fois, elle est très loin dans le niveau. Donc on se balade, on meurt, puis au bout d'un moment, on se dit « Ah tiens, elle est là !» Tu regardes, j'ai perdu 7 vies pour arriver ici. Ok, donc voilà, il faudra recommencer, ce genre de choses. Mais en plus de tout ça, vous avez des personnages secondaires qui vont venir, en plus de Crash et Coco, qui sont les deux protagonistes principaux de cette nouvelle aventure, qui vont venir en fait apporter un autre éclairage, puisqu'en fait, on l'a pas dit, mais Neocortex est sorti de son espèce de prison en tordant un petit peu l'espace-temps avec ses acolytes malfaisants. Et du coup, c'est prétexte à faire venir des héros un peu d'autres dimensions ou d'autres temporalités, comme par exemple Tona, qui revient complètement relooké, avec des cheveux roses, une tenue assez moderne, etc., qui tranche avec le look de Coco, qui lui est resté complètement dans les années 90, mais alors à 100%. Vous avez Neocortex, vous avez Dingo Dile aussi qui revient, qui sont tous en fait des personnages jouables avec des gameplays particuliers. Dingo Dile, pour le coup, il a son aspirateur qui permet d'aller choper des caisses au loin et de les renvoyer sur les ennemis. Neocortex, il a un blaster qui permet de geler les adversaires et éventuellement de les transformer en plateformes qui vont lui permettre de rebondir. Donc on a un gameplay beaucoup plus 2D, beaucoup plus carré en fait, mine de rien, en termes de trajectoire. Et Tona, qui elle, est presque un personnage de jeu de combat en fait, qui va filer des high kicks en l'air et qui profite aussi d'un grappin pour aller justement chercher des éléments ou s'accrocher ou détruire des éléments du décor. Et ça apporte une grande variété. Et c'est une variété qu'on retrouve aussi, mine de rien, dans les mondes, parce que comme on passe d'une dimension, d'une temporalité à une autre, on passe d'une plage avec des bateaux pirates à un Japon médiéval, à une base spatiale futuriste, à une ville des années 50. Enfin, on a énormément de stages et de mondes différenciés. Et en plus, à chaque fois, il marche très bien. Visuellement, c'est hyper coloré, c'est vraiment varié. On sent que, vraiment, dans la globalité du jeu, il y a eu beaucoup d'amour qui a été mis par Toys for Bob, qui a, à mon avis, espéré pendant tellement longtemps voir un quatrième épisode sortir, qu'ils se sont dit « Putain, les gars, on met tout ce qu'on a, quoi. » Quitte à limite en faire trop, parce que des fois, il y a des moments où on se dit « Ouais, non, mais attends, il y a 50 000 trucs à faire, les gameplays changent d'un personnage à un autre. » Il y a des fois où on se dit « Ouais, ils ont vraiment voulu aller jusqu'au bout et peut-être des fois se tromper un tout petit peu, mais vraiment, on sent derrière qu'il y a une attention... très positif, ils ont eu envie de donner vraiment énormément de choses à faire aux fans, sauf que tout ça n'est pas obligatoire, vous pouvez très bien passer à côté des stages secondaires, c'est pas obligatoire pour finir l'aventure, donc on a vraiment un truc à la carte où chacun va pouvoir aller piocher et faire le jeu un petit peu comme il l'entend, que ce soit le mode de difficulté ou ce genre de truc. Et puis on a même quelques petits modes coop ou versus qui sont pour le coup un peu plus anecdotique, où on va enchaîner en fait des séquences d'un stage et il faudra défoncer le plus de caisses possible, par exemple, ou survivre, ce genre de truc. Je l'ai trouvé assez anecdotique, ce mode multi. Par contre, il y a un espèce de mode rétro qui est assez rigolo, qui permet en fait de se passer à la manette dès qu'on perd une vie. Tu rentres le nombre de joueurs qui sont là, jusqu'à 4, et dès que quelqu'un meurt, ça te dit bah, passe la manette. Et
donc, il commence le niveau ensuite, au début.
Etc, etc. Du coup, il y a ce petit côté de challenge de ne pas mourir, justement, comme avant, qui est plutôt rigolo. Mais voilà, dans sa globalité, c'est vraiment un jeu avec énormément de contenu, et qui marche bien. Vraiment, les mondes sont super appréciables. Il y a des mécaniques qui se développent au fur et à mesure. Les petits regrets que j'ai, c'est que les masques quantiques, en fait, c'est une super bonne idée, mais t'arrives à les conjuguer ensemble que dans les tout derniers niveaux. Vraiment, dans ceux d'avant, c'est à chaque fois qu'on utilise un, c'est les mécaniques autour d'un truc.
Ils les introduisent.
C'est monothématique, voilà, tu passes au monde d'après et tu vas surtout te centrer sur le nouveau masque. Et vers la fin, tu découvres des stages où tu peux enchaîner différents types de masques et donc différents types de gameplay au sein d'un même passage. Et là, tu te dis, ah ouais, ça aurait pu aller encore plus loin.
Mais Crash Bandicoot 5 !
Sauf que le jeu s'arrête. Et tu te dis, ah, c'est quand même dommage parce que tu sens qu'ils avaient des idées, mais que du coup, ils ne sont peut-être pas allés jusqu'au bout de la réflexion. Donc, petit regret de ce côté-là. Petit regret en termes de manip, mais ça, on en avait discuté au moment de la preview. C'est un petit peu symptomatique de la série, hein, même si on a un réticule, un espèce de cercle qui est apparu sous Crash. On a quand même encore des moments où on meurt assez bêtement, où on tombe dans le vide, où on lope un ennemi, où on se dit putain, mais...
Bah, c'est Crash Bandicoot, ça.
Visuellement, là, ça collait. Bon, voilà, c'est pas grave, parce qu'on a ce mode moderne qui permet de recommencer encore et encore sans trop rager. Et moi, j'ai été déçu sur un tout petit point, c'est les musiques, qui pourtant sont sympathiques, mais en fait, le gimmick de Crash Bandicoot 4, ça a été... on a un thème qui est en plus assez emprunté à celui de Crash Bandicoot 3, donc ils sont pas allés le chercher très très loin, et l'idée c'est qu'on reprend ce thème et dans le monde des pirates on va le jouer au bandoneon,
ouais.
etc, dans le Japon médiéval,
dans l'espace avec des
au Térémine dans l'espace, enfin, tu vois ce genre de truc, et t'as l'impression qu'ils se sont dit ok, on a la mélodie et on va la réorchestrer en fait dans la thématique de chaque monde. C'est sympa, mais au bout d'un moment tu te dis ah ouais putain, encore,
ils ont pas été très loin, voilà. Ouais.
Donc c'est un petit regret, mais voilà, il y a quelques trucs un peu moins réussis.
Un truc dont t'as pas parlé et que moi j'avais tilté quand ils l'ont annoncé et après quand, parce que j'avais joué à la démo à laquelle t'avais eu accès pour la preview, c'est que je l'avais trouvé visuellement super chouette. Je trouvais que le style graphique du jeu était très très réussi.
Oui.
C'était ils n'ont pas cherché à en faire plus qu'il avait besoin d'en faire. Mais malgré tout, il y a quand même un vrai travail. Et je trouve... Enfin, il a une patte. Il a une patte qui est très réussie, qui va bien. Qui est dans la lignée. Mais la lignée évoluée du remastered, enfin de la Insane Trilogy. Je trouve que ça fonctionne bien. Et un autre truc qui m'avait marqué sur la démo de la preview, c'est la précision du timing demandé dans certaines phases. Alors, je me souviens plus du détail exact parce que ça commence à remonter, mais je me souviens d'une scène où il y avait où t'as un timing limité, je crois que t'es poursuivi par un truc, où tu dois glisser sous une plateforme, ensuite sauter par-dessus du feu, ou etc.
Les caisses de lave dans le monde des dinos. Ouais.
Ce truc-là, soit t'as la chance innée et que tu y arrives du premier coup, soit t'es obligé de recommencer
pour avoir
bon enchaînement.
J'ai une explication pour ça, je l'ai compris.
C'est que t'es trop mauvais.
Non, pas du tout.
Non, parce que j'ai réussi à le faire.
Je l'ai compris en faisant le jeu, c'est qu'en fait, les quelques mondes qui nous ont été donnés pendant la preview, ils arrivent assez tard dans l'aventure, aux trois quarts.
Donc normalement, t'as plus de skills.
T'as développé ton skill, t'as pris plein d'automatismes, et du coup, t'es de taille à te mesurer à ce genre de défi.
Mais voilà. C'était pour pas que les gens qui faisaient les previews aient l'impression de se retrouver avec une redite des vieux Crash Bandicoot. Donc ils ont montré les trucs nouveaux, mais
on a eu des stages quand même qui commençaient à être un petit peu high level. Et je rebondis juste sur ce que tu dis avant de conclure. Effectivement, en termes de patte artistique, il est vraiment super chouette, et t'en profites énormément. Parce qu'il y a plein de petites cutscenes entre les stages où t'as Crash qui est un personnage mais à la Tex Avery vraiment, qui avec les yeux qui lui sortent des orbites, qui tire des tronches pas possible. C'est super bien fait, et même au-delà de ça, quand tu récupères les gemmes justement des différents niveaux, à chaque fois ça te débloque des skins, et t'as un skin en fait par monde quasiment. Du coup, si t'es vraiment complétiste, tu vas aller les chercher, et ils sont en plus hyper réussi. Il y a vraiment énormément de détails et c'est un vrai plaisir de débloquer un skin à un moment donné et de l'utiliser dans le monde en question parce qu'il va être vraiment thématique. Tout fonctionne très bien. Il y a des skins pour Crash, des skins pour Coco. Bref, il y a énormément de trucs à... Il y a énormément d'items à aller chercher qui sont purement cosmétiques mais qui sont tellement chouettes que tu as naturellement envie de poncer un petit peu les niveaux, de faire les chronos, parce qu'il y a des chronos aussi pour débloquer des reliques.
Enfin, de tout récupérer aussi, tu prends 10 millions d'années.
Et je tire mon chapeau parce que j'ai vu déjà des gens sur le net balancer la vraie fin qui nécessite d'avoir récupéré tous les items. Et là, je me suis dit, ok, respect les gars, parce que
fort, hein.
Vraiment, c'est pas du Super Mario, là. C'est Crash Bandicoot, c'est quand même un petit peu plus vénère pour aller chercher le 100%. Il y a déjà des gens qui ont réussi à le faire, donc bravo.
Mais ce que je trouve super, c'est que après le succès, le grand succès de la Insane Trilogy et du remaster de Crash Team Racing, bah, Activision aurait pu vouloir battre le fer tant qu'il est chaud et mettre en chantier une redite des vieux Crash rapides, tu vois, faites vite fait. Mais non, ils ont pris le temps, ils ont fait un vrai épisode inédit.
On est sur une vraie évolution de la série.
Qui fait honneur à la série, justement, et qui est clairement le meilleur épisode depuis les trois premiers.
Depuis Warped, qui était un peu la quintessence de la série.
Donc ils méritent amplement de mettre le 4 après le titre. Quoi. Ils peuvent s'inscrire dans la lignée directe.
Pour le coup, il a mérité son numéro. Ouais. Fallait réussir à prendre la suite, justement, de cette trilogie quand même un petit peu mythique pour les vieux joueurs que nous sommes. Mais là, assurément, si vous avez aimé vraiment les originaux, que vous avez pris du plaisir à les refaire à travers la trilogie, vous pouvez foncer. Crash 4, c'est du bon. Pour l'instant, il n'est disponible que sur PS4 et Xbox One. Il y avait des mentions de la Switch et du PC dans le code source du site. Là, on a le SRB qui le liste sur Series X. Bref, il y a des chances qu'ils sortent quand même à peu près partout.
Ouais, ça sent le cross-gen aussi. Ça sent la mise à jour gratuite.
Alors qu'il est déjà très beau sur PS4 Pro et One X. Il tourne merveilleusement bien. En plus d'être beau et coloré, il est extrêmement fluide.
Et 10-10, indispensable, bien sûr.
Non, c'est un 8. Très bon jeu. Il a eu 8 sur 10 8 sur tout 10 court.
Sur Gameblog, vous pouvez lire le test d'ailleurs.
Quand j'avais joué à la preview, ça m'avait bien branché. Je suis content de voir que sur la totalité, ça se confirme.
Tout à fait. Bah, écoute, merci.
Et bien pour
Thomas.
Toys for Bob qui passe dans une autre catégorie de studio grâce à ça. Exactement. C'est leur première. Enfin,
ils vont faire que des chefs-d'œuvre maintenant, ça y est.
C'est plus une création que du boulot de commande. Enfin, du boulot de commande.
Ou de remaster.
Voilà,
ou
de réorchestration d'un truc.
De remettre. Parfait, ben voilà, on a fait le tour de ce podcast de rentrée numéro 538, déjà de sa 15e année, qui est parti sur les chapeaux de roue, n'est-ce pas ?
Cela ?
Ouais, exactement. Okay. J'avais pas du tout pensé à ça, mais que
t'aurais dû prendre la capille à côté et te le mettre.
Non, parce que dès qu'il y a une blague, chapeau de roue, tout ça, généralement ça nous tombe dessus.
Oh, j'ai même pas pensé à ça.
Quand je dis nous, j'inclus Poufi, évidemment.
Poufi, il est moins roux que toi quand même.
Poufi, que vous ne voyez pas à l'écran, mais qui a son manteau de fourrure, sa grosse chaîne, sa chaîne en or.
Sa chaîne en or de rappeur, et puis voilà, c'est la teuf.
Ses dents en diamant.
Parfait, bah écoutez, voilà, pour ce podcast de rentrée, on a tenu le coup dans ce nouveau décor avec cette table et tout. La table a tenu, les micros ont tenu visiblement.
Oui, enfin, le tien a failli tomber quand tu l'as dévissé tout à l'heure.
Ouais, parce que j'ai dévissé dans le mauvais sens.
Je sais pas si ça s'est vu à l'écran, mais.
Quand Poufi, il sert pas très fort.
Et quand j'ai vu que tu commençais à toucher le truc, je me suis dit. Combien de temps avant que ça tombe ?
Non, j'avais dévissé dans le mauvais sens, mais j'ai remis dans le bon sens. Hein, inquiétez pas. Parfait, bah écoutez, il est temps de se dire au revoir et puis de se donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast.
C'est reparti, ça y est. Vous pouvez arrêter de nous les réclamer, nous sommes de retour.
Nous sommes de retour.
Mais cela dit, c'est bien que les gens réclament.
Ah oui, vous avez raison.
Mais on est vraiment très contents d'être revenus. Hein. Nous aussi, ça nous manquait.
Exactement, il nous a fallu du temps, etc. pour refaire des choses, tout ça. Donc,
pied malade.
Nous sommes de retour. Et puis la semaine prochaine, petite surprise, on vous en dit pas plus, vous verrez ça.
Oh, ce teasing!
J'allais dire sur les antennes de Gameblog, c'est un peu ça.
Ok, Jim Ryan.
Exactement. Attends, elle est où la PS5 là? Allez, bah, écoutez, merci à toutes et à tous, on se dit à la semaine prochaine, et puis toujours fidèle au rendez-vous, et puis d'ici là, bah, portez-vous bien, jouez bien, et puis à très bientôt!
Ciao, ciao! Un gros bisou derrière le masque!